à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. Ça faisait 3 ans.
J'ai hâte que cette émission se termine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai hâte.
Pas de pitinette aujourd'hui.
Mon Dieu.
Enfin.
Bonsoir, Chidi.
Bonsoir, Dino.
Et bonjour, chers auditeurs.
Dino, nous ne sommes pas seuls ce soir pour ce merveilleux Grand Prix.
Oui, nous sommes avec quelqu'un qui a eu le courage de s'engager sur le Grand Prix d'Abu Dhabi et qui en a été récompensé, puisque nous avons sans doute assisté au plus beau Grand Prix de la saison, avec un vainqueur qui est sans doute l'un des plus beaux vainqueurs de la saison.
Ah oui.
Ça va attendre des opinions. Puisque c'est Alex qui a prévu pour ses 40 ans d'aller à Abu Dhabi.
Exactement. Bonsoir Dino, bonsoir CNJ, bonsoir tout le monde. Bien sûr, il y aura des choses à raconter sur ce Grand Prix. Bon, ça dépend. En tant qu'admirateur de la F1, même le Grand Prix d'Inde, je l'ai aimé. Mais celui-là, c'est vrai qu'il était quand même exceptionnel.
J'ai aimé la F1 pour avoir aimé le Grand Prix d'Inde cette année.
C'est les fans hardcore. Même les courses ultra chiantes, ils les regardent 15 fois.
Bah, autant quand même. Mais mais on peut se faire du suspense tout seul. On disait, ah, c'est pas possible, le premier s'arrête au 15e. Les autres, ils vont quand même pas attendre encore 15 tours. On se fait monter la pression tout seul.
C'est vrai, on y arrive assez vite.
Mais ce week-end, on n'a pas eu besoin. Ce week-end, on n'a pas eu besoin, on n'a pas eu le temps non plus de laisser se reposer entre les événements. C'était très intéressant.
Faut dire aussi qu'on a attendu longtemps avant d'avoir la grille, mais bon, ça, on en reparlera.
Vous avez vu, c'est beau, j'ai même pas eu besoin de demander, hein, est-ce que c'était intéressant? Bien sûr que c'était intéressant,
Mais avant de parler du Grand Prix, Shinji.
Oui. Quoi?
Quelques jours qu'on était, dimanche, là, le jour historique où Kimi l'a gagné, mais tout le monde s'en fout. Oui, c'est Shinji, tout le monde s'en fout, fondamentalement. Le top 10 va parler de lui-même, Shinji, voyons.
Je citerai un grand penseur qui a dit dimanche, je sais ce que je dois faire.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Donc oui, ce dimanche, nous étions le 4 octobre. Et qu'est-ce qui s'est passé un 4 octobre, autre que le 4 octobre 2012?
On va se barrer.
Le 4 octobre?
On va se barrer.
Ah oui, c'est vrai.
C'est un événement du 4 octobre 1973.
Mais surtout que c'était le 4 novembre.
C'est déjà une victoire qui te semble lointaine.
Oui.
Je te comprends, je me dis.
Messieurs, le chiffre de la semaine, écoutez bien, c'est un petit chiffre. C'est le chiffre 11. Comme le mois de novembre, mais c'est pas ça.
Ah.
11 victoires de Raikkonen, non?
Oh non, il en a plus.
Aucun rapport avec la Formule 1, Alex.
Ah, mais oui, c'est juste.
À la limite, ça a un rapport avec un appartement F1, même si Shinji a tendance à nous parler d'appartements qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros. À la limite, ça a un rapport avec la touche F1, mais jamais, jamais, jamais avec la F1. Est-ce que ça a un rapport avec la F1?
Non. Ni avec la touche F1.
Ni avec les F1 de les appartements.
Non, non.
Tu n'as pas fait dans l'immobilier, ça, non, c'est pas le plus petit appartement du monde.
Ah, coup. Non, il y a pas de lien avec l'immobilier.
C'est un prix?
Non.
Est-ce que c'est un nombre de personnes?
Non.
Est-ce qu'il y a une unité derrière?
Oui.
Une unité?
Une distance?
Pas de distance.
De poids?
De poids.
11 kilos?
11 kilos, tout à fait.
C'est le poids que tu as perdu durant le Grand Prix?
Oh non.
Ouais, en faisant waouh, waouh.
Tellement d'émotion avec toutes ces choses, mais bon, voilà, ça n'a pas de rapport.
Ah, mais à un moment donné, il a pas répondu sur Twitter, je me suis dit, il est en train de nous faire une crise cardiaque.
Crise cardiaque.
11 kilos, c'est la masse d'un objet.
Oui.
C'est pas la masse d'un bébé, c'est pas le plus gros bébé du monde.
Ah non, c'est un objet.
Oh la pauvre.
Oui.
À peu près. C'est pas 11 kilos de matière illicite, non.
Que je vérifie, normalement, c'est pas illicite.
Donc c'est pas du tout illicite du tout. C'est généralement quand je dis normalement c'est pas illicite, c'est que c'est pas illicite du tout. Quoi. C'est genre c'est du beurre. Est-ce que c'est du beurre?
C'est pas du beurre.
Le beurre illégal, ça serait fun. J'aurais des trafics de beurre au fond des rues.
Oui, tu saurais quoi faire, mais...
Est-ce que c'est alimentaire?
Non.
C'est un objet manufacturé?
Oui. Enfin, qu'est-ce que tu entends par manufacturé?
C'est-à-dire qu'il a été manufacturé? C'est-à-dire qu'il a été fait par la main de l'homme?
Oui.
Une sculpture?
Ça peut être assimilé à de la sculpture.
C'est une œuvre d'art.
Dans son utilité première, non, mais maintenant on peut considérer que c'en est
une. C'est un trophée, une remise à un prix, comme la statuette des Oscars, c'est le poids d'une de ces statuettes, non?
C'est
ça paraît beaucoup
pas
quand
exactement
même.
Un trophée, mais on peut être dans ce genre d'idée.
C'est un objet du passé qui aujourd'hui peut être utilisé comme élément de décoration.
Bah, si tu me dis que tu mets ça dans tes toilettes, je m'inquiéterais, hein.
Non mais voilà, mais c'est un objet, genre, tu sais, maintenant, c'est à la mode, ça, c'est les objets, du quotidien au début du siècle, et aujourd'hui on utilise dans la déco, quoi. Non. Est-ce que c'est un objet qui a un moteur ou qui a un mécanisme à l'intérieur? Un objet du quotidien?
Non.
Du dimanche?
Non plus.
Du mardi?
Non plus.
Du 13 septembre?
Bah non.
C'est un objet qu'on utiliserait que le 13 septembre, mais qui aurait été inventé un 4 novembre?
Non.
C'est un objet qui n'a servi qu'une fois?
Oui.
Une fois.
C'est le poids d'un caillou lunaire ramené un 4 novembre? Non.
Non.
C'est un objet qui a une importance historique? Genre les tablettes de la Bible, elles faisaient 11 kilos. Et c'était un 4 novembre. Voilà, Moïse, il était parti le 3, puis il faisait un peu frais, donc il s'est dit...
Je dirais que c'est un objet historique, mais pas qu'il a forcément une importance historique.
Oui.
Est-ce qu'il a une couleur verte? Est-ce qu'il est vert?
Non, il y a du vert dessus, mais il n'est pas à dominante verte.
Il est quadricolore?
Facilement, oui, quadricolore. Voire plus.
Est-ce qu'il y a du vandélique dans les couleurs?
Non, je ne crois pas. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du blanc, il y a du noir.
C'est un objet du 20e siècle?
Non.
Du 19e?
Non.
Du 18e?
Non.
17?
Non.
C'est le vase de Soissons, il faisait 11 kilos.
Non.
C'est un objet de l'Antiquité?
Oui.
C'est un objet de multicolore de l'Antiquité qui pesait 11 kilos. Un objet en pierre?
Non.
Un objet en bois?
Non.
En résine?
Non.
Vous n'avez pas de plastique à l'époque?
Non, certainement pas.
Attends, Pierre, il me manque un matériau là.
Un fer, un bouclier.
Ah, pas con ça.
Il y a du métal. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il fait 11 kilos.
Est-ce qu'il a une forme géométrique, cet objet?
Non, pas vraiment.
Il n'a pas de forme?
Bah, pas une forme géométrique précise. Enfin, il a une forme précise, mais pas géométrique.
Est-ce que ça avait une utilité de défense ou d'attaque?
Non.
Non.
C'est ornemental.
C'est ornemental. Par la vache.
Oh là là.
Mais je dois dire que la date, elle, c'est pas un 4 novembre de l'Antiquité, c'est en référence au 4 novembre 1922.
Ah, c'est un objet qui a été volé dans un musée?
Non.
Qui a été mis dans un musée?
Oui.
C'est l'inauguration d'un musée?
Non, la date, c'est pas l'inauguration d'un musée.
1922. Un musée français?
Non.
Américain?
Non.
Anglais?
Non.
Italien?
Non. Et tu te rapproches.
Espagnol, allemand, espagnol?
Non.
Allemand?
Non, tu t'éloignes.
Suisse?
Non, tu t'éloignes.
Attends, musée italien. Grec?
Tu chauffes. Mais c'est pas la Grèce.
Turc?
Non.
Égypte?
Chypriote?
Égypte.
Égyptien.
Alors, quelque chose en fer qui date de la période
c'est
avant.
C'est un sarcophage?
C'est pas le sarcophage.
11 kilos, c'est un petit.
Ah, c'est le, est-ce que c'est doré?
Oui.
C'est le masque de Toutankhamon, le masque funèbre de Toutankhamon.
Exactement.
Ouais,
le masque funèbre de Toutankhamon. Ouf.
On a eu chaud là, l'exposition des détectives pendant 3 heures. D'ailleurs, on faisait un SAV spécial, éphémère et inutile, on parlait pas du grand prix.
11 kilos de quartz, d'obsidienne, d'or, de lapis-lazuli. En effet, parce que le 4 novembre 1922, c'est le jour où on a découvert sa tombe, où on l'a véritablement découvert. Parce que qui était Toutankhamon? Parce qu'en effet, c'est peut-être le pharaon le plus connu. Quand on dit un pharaon, on dit Toutankhamon.
Oui.
Et le masque, c'est pour ça que je disais que si tu faisais un objet de déco, c'est que tu avais des goûts décoratifs assez particuliers.
Ouais, ça peut être sympa.
Ça peut être sympa. Hein. Donc, qui était Toutankhamon? Eh bien, il serait né vers moins 1345. Enfin, peut-être, parce que les historiens, ils savent pas. Peut-être mort vers moins 1327. Et le paradoxe, c'est que le pharaon, sans doute le plus connu au monde, et sans doute un des pharaons les plus oubliables, en fait, de toute l'histoire de l'Égypte.
Oui.
Puisque, alors, on sait qu'il est le fils d'Akhenaton, le pharaon, pas le chanteur.
Qui, lui, est né après Jésus-Christ, hein. Rassurons quand même ses fans.
Donc, il aurait régné à l'âge de 10 ans, ce qui est tôt, pour mourir à 20 ans. Ce qui est tôt aussi.
Oui.
Alors, faut savoir que sa titulature complète, alors, c'est assez long, hein. Je ressors ça. C'est drôle, on dirait un annuaire de Stargate, le truc. Son nom complet est Taureau puissant, celui qui est beau de naissance, celui dont les lois sont parfaites, qui pacifie les deux terres et satisfait tous les dieux, celui qui porte les couronnes, qui réjouit les dieux. Ré est le maître des transformations, seigneur de justice, image vivante d'Amon, régent de l'Héliopolis du Sud. Heureusement, ils n'avaient pas de carte d'identité à l'époque.
Ouais.
Faut savoir qu'on sait même pas qui est sa mère et qu'on sait qu'il est le fils du pharaon Akhenaton qui est aussi connu en fait quand on s'intéresse à l'égyptologie que depuis 2-3 ans grâce à des études génétiques. Et en effet, même son règne, alors qu'il est super connu, il n'est pas un règne notable, parce que ça a duré 10 ans, c'est une époque de troubles religieux, parce que son père, justement, il avait essayé de créer une religion unique, hein, là au milieu de l'Égypte, hein, c'est polythéiste avec plein de dieux. Et donc il meurt à 20 ans, il meurt tellement jeune en fait qu'il n'a pas eu le temps de faire sa tombe. C'est pour ça qu'il est resté inconnu pendant des siècles, puisqu'il a été en fait enterré à toute vitesse quasiment, et qu'on ne l'a découvert en fait qu'au XXe siècle. Alors là encore, il n'était pas gâté par la vie, hein, parce que on a des hypothèses sur sa mort. On a examiné sa momie, elle a révélé alors une blessure au bas du crâne, ce qui pourrait supposer en fait qu'il aurait mal supporté une plaie, notamment parce qu'il aimait beaucoup la chasse. Mmh. Donc déjà ça c'est moche.
Ce que j'adore quand même, c'est que le mec, on sait pas quand il est né, on sait pas quand il est mort. Enfin, c'est approximatif.
Et on n'est pas sûr de quoi il est mort, tu vas voir.
On n'est pas sûr de quoi il est mort. On sait pas grand chose de son règne, mais ce qu'on sait, c'est qu'il aimait la chasse. C'est quand même, voilà, c'est, quand vous êtes historien, il faut le dire, parce que on est de formation historien. Ouais. Vous êtes d'historien, des fois vous avez des bonhommes, vous faites des recherches, et vous apprenez des informations. Et aussi, insignifiantes plus haut point.
Tu sais qu'apparemment, c'était vachement bien d'être à la table, parce qu'il paraît qu'il avait une super bonne table pour bouffer.
Voilà. Mais pour le reste, on ne sait rien.
On sait quasiment rien sur lui. Mais de toute façon, je vais te dire, ça se trouve, il est même pas mort d'une blessure, parce qu'il était mal barré dans la vie, puisqu'on a découvert dans son ADN qu'apparemment il avait la malaria, hein, qu'il serait peut-être mort du paludisme, hein, et dans les os de ses orteils, il se pourrait qu'il ait eu la drépanocytose.
Mais il aimait quand même la chasse.
Mais il adorait la chasse.
Et est-ce que c'était un Goa'uld?
Avec ça, un joli bâton qui fait des lumières.
Ça nous intéresse, ça, Shindy, quand même.
Normalement, tu sais que si t'adores Target, c'est pour de faux.
Quoi? Mm-hmm. Tu veux dire que les pyramides en Égypte, c'est pas des restes...
Non, c'est pas des trucs pour des vaisseaux spatiaux.
Bah, arrête, Shindy. arrête. Non, les pyramides, c'est pas pour les vaisseaux spatiaux.
Non mais la piscine ronde, elle est véritable.
Donc voilà, et donc c'est ça qui est dingue, c'est Toutankhamon, le plus connu des pharaons, est en fait un pharaon, je vais pas dire médiocre, il a même pas eu le temps de régner, le pauvre. Et à 20 ans, il a quand même eu le temps d'avoir 2 gamins. Enfin, peut-être, c'est 2 fœtus en fait, parce que bon, ils ont pas vécu non plus. Oui, même comme père, c'était la mère Toutankhamon.
Voilà, c'est grandeur et décadence de Toutankhamon ce soir, Mais le mec, il a quand même, c'est ça qui est quand même, je pense que c'est aussi ce qui est fascinant avec Toutankhamon, c'est vrai que c'est un pharaon qu'on connaît pas vraiment. Maintenant, c'est l'ampleur du masque funéraire, oui. C'est doré et tout, c'est quelque chose de très clinquant. On se dit, c'est forcément un grand pharaon, un mec qui était super apprécié à l'époque, quoi. Pour qu'on lui fasse ce genre de truc. Mais ça se trouve, c'est lui qui l'a payé de ses propres sous. Il s'est dit, allez hop, j'ai pas de tombe, mais je vais me payer un masque d'enfer.
Pour dire à quel point c'était sans doute pas prévu, c'est qu'en étudiant, en fait, les sarcophages, ils se sont rendus compte que, en fait, il y a des oiseaux avec des ailes, normal pour un pharaon, et en fait, ils se sont rendus compte que ça avait été rajouté après.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment foutu dans une tombe qui était pas du tout prévue pour qu'il y soit.
En fait, c'est pas son masque.
C'est même pas son masque.
C'est, ils avaient rien sous la main, ils ont dit, bah, écoute, prends la babiole, là, c'est le truc, ouais, il fait 11 kilos.
11 kilos d'or.
Ouais, ça va tenir.
Donc voilà, c'était sur Toutankhamon. Et pour parler d'autres vieilleries, mais en F1, eh bien, bon, on est...
Ah, Bernie Cristo. Ah,
non, ça, c'était il y a 2 semaines. Bon, il y a moins de choses, hein, forcément, parce qu'on arrive à la fin de saison. Niveau Grand Prix, par exemple, un 4 novembre, on trouve seulement le Grand Prix d'Australie 1990. Bon, avant-dernière victoire de Nelson Piquet. 300e Grand Prix de Tyrrell. Bon, pas grand-chose à dire. Et sinon, question naissance, c'est la naissance de Jacques Villeneuve. Mais Jacques Villeneuve senior. Donc c'est-à-dire son oncle.
Oui, qui a dû faire même pas. Il a dû se tenter de se qualifier, je crois.
Et notez que le Grand Prix d'Australie 1990, c'était aussi le 500e Grand Prix de la F1.
Ça, c'est important, Philippe.
Ah, carrément. Donc tu vois, c'est aussi pour ça que c'était pas plus mal que vous preniez votre temps sur Toutankhamon, parce que sur la partie F1, il y avait que dalle à dire.
Oui, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que dans 2 semaines et dans 3 semaines, ça va être à peu près pareil.
Et ça se risque même d'être encore moins. Parce qu'il n'y a pas de Grand Prix. C'est-à-dire que je vous le dis tout ça sur les 2 prochaines, je reviendrai même pas sur un Grand Prix parce qu'il n'y en a pas.
Alors que c'est bizarre, tu vois, on ferait un SAV le 1er janvier ou le 31 décembre, là il y aurait rien qu'à dire. Mais là, fin novembre, c'est bizarre, il n'y a rien.
Donc voilà, c'est tout pour l'éphéméride, Dino.
Oui.
Et donc c'est le quart d'heure de l'invité maintenant.
Oui, c'est même un quart d'heure, je dis, tu n'es pas bien généreux. C'est l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Alex, tu le sais depuis le début de cette année? D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu nous écoutes?
Oh, ça fait depuis le milieu de l'année 2010 que je vous suis à chaque Grand Prix.
Putain la vache. Attends, 2010, qu'est-ce qu'on faisait en 2010? Ça nous renvoie vers les trucs, mais qu'est-ce qu'on faisait comme émission en 2010? Merde.
2010, on disait, ouais, c'est chouette, il y a 5 pilotes qui peuvent gagner.
Ah oui, c'est cette saison-là. Alors ça semble, là, oula, il y a longtemps.
Ça défile,
on disait, non, mais Vettel, il est trop jeune, il va pas gagner, ça va être Alonso ou Hamilton.
Ah, mais ça nous fascine toujours, quoi. C'est des gens qui nous écoutent depuis 2010. Voilà. On s'est dit, mais pourquoi vous sortez seulement aujourd'hui du placard, quoi? N'ayez pas peur.
Aujourd'hui est un grand jour.
Pourquoi?
Parce que Grand Prix d'Abu Dhabi, victoire de Kimi.
Ah oui, oui, je croyais que tu parlais d'aujourd'hui. Aujourd'hui, présent, nous enregistrons.
Ah non, le 6 novembre, enfin, bon, il y a les élections américaines, mais bon.
Oh, c'est pas très important.
C'est pas ce qui nous occupe le plus, hein.
Tout le monde s'en fout, hein. Donc, effectivement, hein, c'est ton heure de gloire, Alex. Et tu le sais, hein, maintenant, t'es habitué, l'heure de gloire, ça commence par le...
Pour, pas pour.
Alors, le pour, pas pour, je rappelle vite fait le concept, hein. Je vous fais toutes les semaines.
Le concept aussi con que le pour pas pour.
Mais oui, il faut, j'ai dit. Parce que c'est pas clair.
Bien sûr.
Ouais, encore, ce serait le pour ou contre. Bon, là, ça sera clair, mais le pour pas pour. Les gens se disent, tiens, peut-être, il y a une subtilité. Mmh. Eh ben non. On va prendre 10 thèmes de l'actu de la F1. Enfin, 9 thèmes sur l'actu de la F1. Puis un thème où, là, si l'invité arrive à faire 30 secondes dessus, franchement, bravo. Bon. J'ai dit, par contre, toi, tu pourrais faire 30. Je pense que ce soir, tu peux faire 30 secondes là-dessus. j'ai foi en toi. Donc il y a 9 thèmes sur la F1 plus un thème un peu qui est n'importe quoi. Voilà, l'invité nous dit pour ou pas pour et à la fin il peut revenir sur 3 thèmes de son choix, 4 s'il a été rapide. Mais à la base c'est 3. Alors attention, j'y vais quand tu es prêt Alex.
Je suis prêt.
Alors pour ou pas pour McEnroe pilote HRT en 2013.
Pour.
Pour ou pas pour Helmut Marko.
Pour.
Pour ou pas pour l'augmentation des frais d'inscription des écuries en 2013.
Pour.
Pour ou pas pour la guerre des manufacturiers pneumatiques?
Pas pour.
Pour ou pas pour les fraises Tagada?
Ah, pour.
Pour ou pas pour les essais jeunes pilotes d'Abu Dhabi?
Pour.
Pour ou pas pour qu'Alain Prost prenne les rênes du Grand Prix de France 2013 s'il a lieu et même s'il a dit qu'en fait il les prendrait pas?
Pas pour.
Pour ou pas pour le circuit d'Austin au Texas?
Pour.
Pour ou pas pour la prolongation des pilotes Toro Rosso en 2013?
Pour.
Il n'y a pas de pilote suisse Ah oui, non, il y avait un pilote suisse.
Il y avait.
Pour ou pas pour le retour de Rubens Barrichello en Formule 1? J'aime bien le mettre de temps en temps, ça.
Pas pour.
Et donc, ça nous fait 3 pas pour et le reste, c'est du pour. À noter donc que tu es pour les fraises Tagada.
Oui.
Alors, Shinji, 30 secondes sur les fraises Tagada.
Alors, il y a des fraises Tagada roses qui sont acidulées, qui sont vachement bonnes.
Et mais la fraise Tagada, c'est pas rose?
Oui, non, mais qui sont roses, vraiment roses. Pas roses, tournant vers le rouge. Et je me rappelle une fois à la télé, j'avais vu un reportage où il faisait visiter l'usine Haribo, je sais plus où. Et la personne qui faisait la visite expliquait que pour distinguer la vraie fraise Tagada de la fausse fraise Tagada, en fait, il fallait la faire rebondir. Et que la vraie, en fait, elle rebondissait. Enfin, il y avait une question de rebond. Un truc complètement con, parce que j'ai jamais fait la différence.
Non, t'as raison, c'est sûr.
Voilà.
Bon, non, mais voilà. C'était une erreur de te demander de faire 30 secondes.
J'ai fait 30 secondes sur la fraise Tagada.
Non, voilà, non, mais c'est... À noter que la fraise Tagada fait un très bon gélifiant. Petit truc de cuisinier comme ça, vous faites fondre de la fraise Tagada, ça fait un très bon gélifiant. Voilà. C'était l'information inutile qui ne sert à rien, mais c'est pas grave. Alors, tu peux revenir sur 3 sujets de ton choix, Alex. Vas-y.
Oui, alors je choisirai la guerre des manufacturiers. J'ai dit pas pour... je pense qu'on a eu une période où il y a eu justement 2 types de pneus et qu'on avait des pneus qui étaient beaucoup mieux adaptés que les autres et ça gomme un peu toutes les performances. L'équilibre qu'on a aujourd'hui avec les mêmes pneus pour tout le monde, on a une bataille au niveau des pilotes, des voitures et des moteurs. Je trouve que c'est déjà pas mal pour différencier tout ça. Et les pneus, ça pourrait amener casser un peu cet équilibre en ayant vraiment des pneus qui soient beaucoup mieux que les autres. Et là, je trouve que l'équilibre Pirelli, moi, je l'aime bien. Moi, je suis assez satisfait depuis qu'il n'y a pas Pirelli. Et je trouve que ça fonctionne bien.
Le concept, toi, des pneus qui se dégradent volontairement, enfin, qui sont justement programmés pour avoir une faible durée de vie, toi, ça te plaît?
C'est, le pied d'égalité qui me plaît surtout.
Oui.
C'est que on a d'autres éléments qui interviennent, on a les différents moteurs, Renault, tout ça, mais je pense que si maintenant on avait encore des types de gommes différents, de manufacturiers différents, on aurait trop de différences. Déjà, on voit cette année, avec, on a eu de la peine à comprendre sur les premiers Grands Prix comment ça réagissait. Si maintenant on a encore toute l'année avec des manufacturiers différents, selon les types de circuits et les températures, je pense qu'on y perdrait quand même un peu notre latin.
Et est-ce que tu préfères la philosophie Bridgestone qui était d'avoir des pneus très endurants quitte à ce qu'ils fassent toute une course entière ou celle de Pirelli actuellement?
Non, celle de Pirelli actuellement, moi je trouve bien, je trouve que voilà, au début de l'année les équipes, ils ont eu un peu de la peine à trouver la fenêtre de bon fonctionnement et puis maintenant on voit qu'elle maîtrise bien, donc il y a du travail derrière et voilà et moi je reste persuadé contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes et des pilotes d'ailleurs l'ont déclaré, que tous les pneus sont identiques pour tout le monde, que c'est vraiment une l'écurie doit trouver la bonne fenêtre de fonctionnement et si on est à côté, ça fonctionne pas bien.
Et toi, en tant que pilote, en tant que fan de Formule 1, tu suis ça depuis combien de temps? Est-ce que tu as des périodes préférées, compagnie?
Alors, je suis la Formule 1 depuis 2000-2001.
Ah, les bonnes années!
Voilà!
Quelle est ta période préférée? Ah ben écoute, février 2003, c'était pas mal, moi, je trouve.
Non, moi, j'ai bien aimé un peu toutes les périodes, parce que chaque période avait ses points forts et ses points faibles, mais à chaque fois, voilà, donc... moi, je trouve que c'était des bonnes périodes, les années Schumi, même s'il y avait une domination. Après, Alonso, il a quand même été les chercher un peu ses victoires. Après, on a les différentes batailles qu'il y a eu entre 2008 avec Hamilton, le dernier point jusqu'au Brésil avec Massa. C'était des bonnes années. J'ai trouvé que c'était très divertissant.
Et tu regardes d'autres sports mécaniques? Parce que il y a peut-être un autre sport que tu préfères avant tout?
Non, pas du tout. Non, ça me prend déjà passablement de temps. je pratique de la moto, mais je suis même pas les Grands Prix moto. C'est pas.
Oh, tu rates rien.
Non, c'est vraiment la F1.
Non, c'est vrai,
il
rate rien.
Voilà, c'est la F1 et ça fait des années que je suis et j'aime bien un peu de l'atmosphère qu'il y a autour. Voilà, c'est la F1.
Ok, est-ce qu'il y a un deuxième pour-pas-pour sur lequel tu voudrais revenir?
Oui, Austin. Alors, pour le circuit d'Austin, je trouve...
Et pas pour la ville. la ville, je la raserai.
Je trouve que c'est intéressant d'avoir un nouveau circuit, même si ils ont déjà beaucoup travaillé avant d'aller sur place avec les simulateurs et tout ça. Donc ça, on voit pas du tout comment ils préparent tout ça avant. Mais on va pouvoir juger des différentes mises au point, comment ils vont arriver sur le circuit, combien de temps ils vont mettre à s'adapter en ayant, disons, quasiment feuille blanche. Bon, avec les voitures, on connaît aujourd'hui les voitures, celles qui ont quelques points positifs, celles qui ont plus de peine avec les pneus ou comme ça, mais en général, on n'a pas d'historique des autres courses ou comme ça, donc moi je trouve que ça sera intéressant de voir comment vont réagir certaines équipes, est-ce qu'on va voir des équipes qui fonctionnent bien, qui vont se retrouver à la rue, ou bien alors une autre équipe qui va bien s'en sortir, voilà. Ça, c'était pour Austin. Le circuit a l'air en plus sympa. Là, je l'ai regardé le tour qu'a fait Jérôme D'Ambrosio. Voilà, ça nous fait
Il a l'air bien aimé, en plus, Jérôme D'Ambrosio, apparemment.
Il tournait pas bien vite, il me semble.
La gazette F1 sur TF1, il a dit qu'il aimait bien le circuit.
Il n'a pas été bien vite, il me semble.
Non, mais ils peuvent pas parce que voilà, c'est la démonstration et puis le circuit n'est pas encore pleinement opérationnel.
Non, mais ça va, ça sera prêt. Non,
ils avaient dévoilé à Abu Dhabi, c'était Bruno Senna qui avait fait le premier tour à bord d'une biplace. Bon, déjà, une biplace. Et tout le monde disait, il se traîne. Ah oui, attendez. Bon, déjà, c'est une biplace. Ensuite, c'est Bruno Senna, c'est pas non plus un pilote de Formule 1 confirmé et compagnie. Et en plus, il peut pas attaquer, quoi. Il y a juste aucun intérêt à aller attaquer. Le but du jeu, c'est pas de chercher un temps, c'est juste de faire un tour. Et un troisième pour pas pour
Barrichello. Barrichello pour. Je pense que s'il a trouvé une autre activité maintenant, il faut tourner la page. Je parlerai aussi en extension un peu de Schumacher. Voilà, il a eu son époque. On voit maintenant en revenant que c'est pas si évident que ça de revenir. Je reste persuadé qu'il pensait quand même qu'il allait pouvoir faire beaucoup mieux que ce qu'il y a eu et que maintenant voilà les choses ils ont changé, ils ont évolué et que il faut laisser un peu la place aux jeunes. Voilà.
Il est déjà en train de préparer le terrain puisqu'il a dit que bon, l'année prochaine la voiture allait quand même porter un peu sa signature, donc grosso modo si la voiture l'année prochaine marche bien, ça sera en partie grâce à Schumacher.
Ouais, mais il a pas compris, c'était que pour celle qui lui offre.
Alors il va avoir en fait la voiture de Monaco.
Ah, bah.
On lui a demandé laquelle il voulait parmi celles de cette année et il a dit bah je vais prendre celle de Monaco. Ah bah oui, c'est celle où t'as été le plus rapide avec. Donc,
c'est celle qui s'adapte le mieux à la route ouverte.
Oui, voilà, je pense. Elle est bien réglée, celle-là. Après, Schumacher allait chercher son pain avec sa Mercedes.
On le voit souvent passer avec sa Mercedes.
D'ailleurs, je vous invite, ce concernant la retraite de Schumacher, je vous invite à relire sur le site d'Enzo. Il avait fait une bande dessinée, enzof1.com. Il avait fait une bande dessinée sur la retraite de Schumacher en 5 ou 6 planches et qui était vraiment très drôle. Donc vraiment, je vous invite à aller la revoir. Est-ce qu'il y a au hasard un quatrième pour pas pour que tu aurais voulu aborder?
Non, pas spécialement, mais le HRT, j'ai même pas compris le nom du pilote.
Alors, Makinwa, qui est Makinwa?
J'ai indiqué Makyu.
Ouais, c'est écrit Ma, en fait. Parce que, alors nous, on dit Makinwa, mais en fait, on devrait dire Kingwa Ma.
C'est-à-dire que Makinwa...
Je crois que les Chinois, ils mettent le nom de famille en premier.
Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est à l'asiatique. Ils mettent le nom avant le prénom. Donc, voilà. Ma, c'est son nom de famille, et Kingwa, son prénom. Ah. Donc, c'est pour ça que ça c'est, comme il y a Raikkonen
donc,
Ka...
Kingwa, c'est aussi une graine germée, hein, Kingwa.
De la même façon où il y a M. Schumacher, bah lui, il y a marqué Makyu.
Voilà. Est-ce qu'il y a une actu des dernières semaines en dehors des grands prix dont tu n'as rien eu à foutre?
C'est une question intéressante. Depuis que j'écoute le SAV, j'ai toujours pensé à cette fameuse question, mais justement moi je peux pas y répondre parce que justement si l'actu j'en ai rien eu à foutre, c'est que je l'ai pas lu.
Ouais.
Donc voilà, donc je dirais que celle que j'en ai rien eu à foutre, c'est celle que j'ai pas lue. Mais je dirais en général quand c'est des articles qui commencent par un ancien pilote qui dit que tel et tel n'est pas un champion, alors que un pilote dit que mon père était meilleur pilote que l'autre, c'est la même chose. Je vais pas plus en général, parce que les choses elles changent tellement d'une année à l'autre que effectivement sur ce moment-là peut-être que mais c'est incomparable, donc c'est vraiment des choses que je perds même pas tant à lire.
Est-ce que tu dans les prochaines semaines, est-ce que quelle serait l'actu en dehors des grands prix que tu aimerais lire
dans les prochaines semaines? La dernière course décidera de tout.
Ah,
c'est possible.
C'est possible.
c'est possible.
Faut savoir que à Austin, les deux pilotes peuvent être titrés et les deux pilotes peuvent de première ne pas être titrés.
Tous les scénarios. En même temps, si les deux peuvent être titrés, tu sais qu'il n'y en a qu'un de titré, donc c'est normal que les.
En même temps.
Non, mais dire que pour les deux, il y aura un scénario de titre possible.
Oui.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Me cherche pas, je te dis parce qu'on va commencer à s'énerver là.
Oh non.
Alors tu te calmes.
Pas ce soir. Ce soir, on est heureux, on est content, on est relax, on mange des Magnums, on boit de la vodka, c'est voilà, c'est.
Mais en plus, je dis des conneries, Alonso pourra pas être titré, non, pourra pas être titré.
Ah bah voilà, c'est bien la peine.
Voilà. Non mais voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'au contraire, il y a une actualité, toujours en dehors des Grands Prix, que tu n'aimerais pas lire lors des prochaines semaines?
En dehors des Grands Prix?
Ouais.
En dehors de, oui, la mort de quelqu'un, parce que ça rend tout bien, car
oui.
C'est ce qui venait à l'esprit, donc, non. Ouais, j'aimerais pas que finalement, bon, maintenant c'est bien embrayé, mais qu'il y ait un grand constructeur comme Mercedes qui renonce ou qui annonce un départ.
Ce serait énorme. Alors écoute, Lewis, il faut qu'on te parle. L'année prochaine.
Ça fait le thème.
Alors écoute, bon, la bonne nouvelle, c'est que nous, on reste. La mauvaise, c'est qu'on n'a plus les moyens d'avoir Rose Brown. C'est que déjà, toi, va falloir que tu envoies ton salaire un petit peu à la baisse. Et que même Cosworth ne veulent pas nous vendre leur moteur. Donc, on va être obligé de te mettre des pédales. Alors, tu seras au-delà des 107% pendant 4 ou 5 Grands Prix. Mais après, on espère bien avoir des pédales à effet rétroactif, aérodynamique et nucléaire, tu vois, pour pouvoir te permettre de te qualifier dans les 107%. Et là, Lewis meurt. Voilà. Donc, on avait dit quelque chose qui ne concerne pas la mort d'un pilote, Alex. Fais pas d'effort. Donc, ensuite, est-ce que tu aurais un drive-thru of the weekend?
Sur le week-end, pas forcément. Par contre, plutôt sur les différents intervenants où à chaque fois on a parlé des présentateurs qu'il y avait sur TF1 par rapport des fois à des bêtises ou des incompréhensions ou comme ça. Mais moi, je pense des fois on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On voudrait toujours mieux. Des fois, mieux, c'est pas toujours ça. Je regardais à l'époque sur la télévision suisse romande, donc les grands prix, où là, faut savoir que nous, en Suisse, il y a aucun déplacement qui est fait. Il le fait tout depuis les studios et on a une personne. Donc, quand j'ai commencé en 2000, je regardais sur la télévision suisse et le jour où j'ai découvert sur TF1, pour moi, ça a quand même été, je trouve que c'est quand même un service qui est proposé autour de la F1, qui est quand même relativement bien. On prend seulement si on a un présentateur, il y a des temps morts, c'est toujours aussi un peu les mêmes commentaires qui reviennent, tandis que là on a un trio qui se complète vis-à-vis de leur expérience, du vécu et tout ça. Je trouve que c'est quelque chose qui est proposé qui est très intéressant. On a aussi des magazines qui entourent. Je suis tout à fait d'accord que la Gazette n'apporte rien, mais entre rien du tout ou la Gazette, c'est quand même aussi de voir des images qui se passent autour du Grand Prix, des choses du Grand Prix. Il faut voir que sur les autres chaînes, on n'a pas du tout ça. Donc moi, je dirais déjà, c'est déjà un plus qu'il y a comparé à rien du tout. Et je trouve que même si, voilà, plus on a de présentateurs, bien sûr, plus il y aura des erreurs ou des bêtises qui seront dites. Mais voilà, il y a une palette proposée qui est très diversifiée.
Non mais c'est vrai que ça, nous généralement quand on juge c'est toujours sur ce qu'on pourrait avoir et c'est jamais sur ce qu'on pourrait perdre.
Oui, c'est normal, en puriste on toujours un peu exigeant, peut-être même un peu. Alors, trop parfois.
Justement, je vais profiter de ton drive through, Alex, pour embrayer sur le mien. Je vais m'adresser à monsieur Jean-Louis Moncey, que j'ai toujours beaucoup respecté et compagnie, mais moi, il m'agace un petit peu, c'est que à plusieurs reprises, il s'est permis pendant la retransmission télévisée de Grand Prix de dire que de parler des journalistes, notamment qui travaillent sur Internet, dont je suis pas journaliste, mais je fais partie de ces rédacteurs qui travaillent sur Internet, qui consacrent beaucoup de temps sur leur vie privée et compagnie et qui écrivent des articles souvent pas rémunérés et qui souvent ont pas forcément la chance d'avoir des accès comme certains journalistes qualifiés. Il s'est souvent permis de critiquer ces journalistes en parlant de journalistes qui sortent jamais de leur rédaction ou de leur bureau ou qui sortent jamais de chez eux, qui vont jamais sur les grands prix. Maintenant, faudrait pas non plus tomber dans l'extrême qui est de justement ne se reposer que sur l'ambiance des grands prix. Et pour ça, je vais faire référence au cas des couvre-feux de Ferrari puisque malheureusement Jean-Louis Moncey a annoncé pendant les essais libres 3 que Ferrari pourrait être pénalisé pour les couvre-feux en s'appuyant sur ce que lui avait dit Red Bull, ce qu'on avait dit chez Red Bull. Sauf que ce qu'il faut que monsieur Moncey se rappelle, c'est qu'il y a un document qui existe en Formule 1 qui s'appelle le règlement, qui est disponible pour tous, et que même si on est sur un circuit de Formule 1, même si on est sur un Grand Prix, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir à disposition ce règlement et d'envisager les sanctions uniquement en lisant ce règlement.
Surtout que le coup des 4 couvre-feux, c'est un point de règlement connu.
C'est un point de règlement connu.
C'est
et
pas...
puis c'est...
Voilà,
c'est... Moi, surtout, ce qui m'embête, alors c'est vrai que j'ai envoyé...
Que le fan lambda de F1 le connaisse pas forcément, ok, mais quand tu suis un peu la F1, tu le connais, je veux dire, ça a été évoqué dès le début de saison.
Tu vois, moi, ce qui me dérange pas, j'aurais pas fait de drive-through à Jean-Louis Moncey, si il avait dit, bon, j'ai envoyé un, donc j'ai envoyé un tweet sur le compte de F1 à la une en disant non, il y a un article, et le 30.18 ou 19.
Oui, ceux qui ont vu les essais et qui ont entendu un dino.
Voilà, c'est moi. Et donc, Malbranck a dit non, apparemment il y a un article, dino et compagnie, dit qu'il y a un article. Et moi, ce qui m'a surtout agacé, c'est la réponse de Jean-Luc Moncey qui a grosso modo dit, ouais, enfin quand même, Red Bull, c'est des gens fiables. Non, mais je parle pas de Red Bull, j'ai le règlement devant les yeux. J'étais en train de faire l'article que vous avez pu lire sur Fan F1, j'ai le règlement devant les yeux. Donc, c'est pas parce que vous êtes sur place et que vous parlez avec Red Bull que forcément vos informations sont plus valables. C'est ça qui m'énerve. C'est à un moment donné, c'est juste quand on peut pas juste s'appuyer en disant, non, mais si Red Bull le dit, c'est qu'ils ont raison. Bah non, bah des fois, Red Bull... Je sais, ça va être dur à comprendre, mais des fois, Red Bull dit des conneries. Mmh. Des fois, Ferrari dit des conneries. Des fois, McLaren dit des conneries. Mais c'est leur boulot aussi. C'est-à-dire que, voilà, si Red Bull ne gueule pas en disant oh, « Est-ce que c'est normal que Ferrari fasse deux couvre-feux dans le même week-end ?» C'est pas professionnel. De la même manière que c'est pas professionnel si les autres équipes n'avaient pas gueulé dimanche en se disant « Mais pourquoi est-ce que Sébastien Vettel il a pu changer ses réglages ?» C'est juste le truc de la F1. Quand on est journaliste et quand on sait faire son travail, ce que monsieur Moncey ne cesse pas de répéter dès qu'il en a l'occasion, on sait aussi prendre de la distance par rapport aux écuries avec lesquelles on est en contact, et ça parfois monsieur Moncey a tendance à oublier de le faire. Donc voilà. Et toi, Chidi, c'est quoi ton draft song?
Je vais prolonger le tien parce que c'est pas exactement la même chose.
C'est une spéciale.
Ça non, c'est pas sur quelqu'un en particulier, mais c'est lié aussi à cette affaire des couvre-feux et même aussi à ce qui s'est passé avec la poule, mais en qualif avec Vettel. Il y a une semaine, j'ai donné un drive-through à Ferrari. Cette semaine, j'ai envie de les défendre parce que bon, c'est pas nouveau, mais à partir du moment où Ferrari peut avoir un avantage dans quelque chose, tout de suite, tu as un déluge de commentaires. Oui, FIA mafia, Ferrari, Jean Todt à la tête de la FIA, ils font ça parce que ça va relancer le championnat.
Mais oui, on est comme ça, nous. Vous croyez quoi? Pourquoi on a mis Jean Todt à la tête de la FIA? C'est nous qui l'avons mis.
Arrête de dire ça.
Mais non, mais Shinji, il faut tout dire. Il faut qu'on dénonce le complot. Tous les gens qui sont abonnés à Ferrari, parce qu'on a une carte de membre, on doit vous le dire, on a une carte de membre. Bon, on essaie de pas trop en parler, mais j'ai décidé, Shinji, ne me retiens pas, s'il te plaît, Shinji. Non, Shinji, je parlerai. Je crois que ça a cessé. Ça fait 300 ans que nous nous réunissons tous les mercredis soirs, d'accord? Dans des caves, à travers le monde, pour fomenter un complot, mais un complot d'envergure mondiale qui consiste à donner à Ferrari un avantage en plaçant Jean Todt. Nous y sommes arrivés, à un moment donné, faut juste arrêter, laissez-nous un peu profiter du complot qu'on a mis en place, quand même. Alors, bon, d'accord, on a voulu mettre un pingouin à la tête de la FIA, maintenant c'est fait, laissez-nous faire notre boulot.
Non, pas un pingouin, le pingouin.
Oui.
Non, mais c'est du délire, quoi. On va peut-être revenir plus tard sur ce qui est arrivé à Vettel, mais Vettel, il prend la pénalité parce qu'il a eu la même chose que Hamilton, enfin voilà, ça a été dit, mais il y a toujours des gens pour dire, oui, non, mais machin. Et le pompon, parce que limite pour moi le pire c'est pas tant ce qui s'est passé en qualif, mais c'est en effet cette histoire couvre-feu qui, comme tu l'as dit, est marquée dans le règlement. C'est un truc qui est marqué noir sur blanc sur dans le règlement qu'ils ont le droit, qu'il y a 4 couvre-feux dans l'année. Voilà, ils ont pris 2. Ouais, bon bah voilà. Non, ça devrait juste faire un article, je sais pas, de 5 lignes dans Fan F1. Je veux dire, ça serait n'importe quelle autre équipe. Ça passerait comme une lettre à la poste, enfin rien. Mais parce que c'est Ferrari, c'est-à-dire que Ferrari, ils ont même pas le droit de faire des trucs légaux, il faut qu'ils soient critiqués.
C'est toujours l'argument qui est le plus facile, enfin même on le voit des fois quand on discute
alors,
sur
Fan
F1.
En effet, ce qui est arrivé à Vettel, bien sûr que ça a arrangé Ferrari, bien sûr que dans la situation actuelle,
oui,
ça a arrangé Ferrari.
Sûr.
Mais de là à relier, et puis en plus tout de suite on nous ressort, oui mais vous vous souvenez à l'époque de Jean Todt, Ferrari. Oui, alors Ferrari, l'époque Schumacher, Jean Todt, c'était il y a 6 ans.
Et c'est moi ce que je regrette dans la position de Jean-Luc Moncey, c'est que Jean-Luc Moncey est quelqu'un qui a une crédibilité, qui est un journaliste à Auto Plus, qui couvre quand même la Formule 1 depuis 20 ans, dont moi-même je reconnais qu'il a une crédibilité, et que justement parce qu'il a une crédibilité, il ne peut pas se permettre de dire des conneries et de pas vérifier ses informations, et surtout de dire non mais si l'équipe le dit c'est que c'est vrai, mais non mais si l'équipe le dit ils ont rien à dire l'équipe, c'est pas le règlement, voilà.
Il y en a qui ont fait remarquer, oui mais c'est pas marqué ce qu'ils ont le droit à deux dans un week-end. Bah justement,
oui, si c'est pas marqué.
Justement, voilà. Si c'est pas marqué, c'est ce qu'ils ont. C'est le principe même de l'exploitation du règlement qu'on fait en F1 et dans pas mal de sports mécaniques et dans pas mal de sports. Depuis toujours, c'est pas marqué. Voilà. Si c'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. Il n'y a rien qui interdit deux couvre-feux dans un week-end, donc c'est autorisé.
Donc voilà, c'était les drapes. On avait des choses cette semaine à dire, c'est rare. Et donc par conséquent, c'est la fin de l'heure de gloire de l'invité.
Tout à fait. Et donc, on va s'intéresser à ce très beau week-end. Et pourtant, hein, quand on pense à Abu Dhabi, en règle générale...
Bon, on pleure.
Oui.
Attends, les fans de Ferrari pleurent.
Pourquoi spécialement les fans de Ferrari?
Mais à cause de Petrov, quoi.
Ah oui, c'est vrai. Parce que j'étais voilà. En train de me dire, mais pourquoi le problème d'arrêt au stand et d'essence de Massa peut les faire pleurer?
Il y avait un problème
d'arrêt. Tu te souviens pas la première année où il y a eu Abu Dhabi, où... Ou est-ce que c'était à... Non, je comprends,
c'était à Singapour. Quand non, il s'est barré.
Oui, non, mais c'est le côté, c'est le côté nocturne qui m'a confondu. Ah, il y a un très beau article dans un journal brésilien de Sao Paulo qui dit que Felipe Massa est un bureaucrate de la F1. Ils sont pas tendres.
Oui, en même temps, est-ce qu'ils ont tort?
J'ai pas dit ça. Allez, on va commencer par les qualifs, bien évidemment. Bon, à la place du con, c'est Jean-Éric Vergne, hein. Voilà, comme d'habitude.
Habituel.
J'ai envie de dire, c'est sa place.
je rajoute plus rien, moi. De toute façon, c'est tout le temps lui, donc.
Voilà, c'est pour ça. Maintenant, on va l'appeler la place de Jean-Éric Vergne.
Allez, bah, il fait presque aussi bien que Ricciardo. Ricciardo fait 17.
Oui, mais Ricciardo est en Q2. Oui, je sais, je suis fan. Voilà, écoute, pour que je sorte, voilà. Je suis fan de Ricciardo.
Faut essayer de trouver des trucs. Quoi, place habituelle pour les Toro Rosso, devant Camille Kobayashi 16 seulement, Bruno Senna 15, Schumacher 14e place, derrière Paul Di Resta 13e, Sergio Perez 12 et Hülkenberg 11. Non, ouais. Il y en a du 1.
Non, Schumacher à sa place.
C'est oui, terrible, ça.
C'est genre truc qui. Finalement, il est peut-être vraiment fatigué en fait. Il en a peut-être vraiment ras-le-bol et là, vas-y, roule. Quoi. Allez. En ligne droite, le mec, voilà, il met les mains derrière le casque, il laisse la voiture aller toute seule.
On n'a pas parlé du fond du classement, mais par rapport à la course de pique aussi, il avait gagné son Grand Prix aux qualifications, donc.
Oui, c'est vrai, Charles Leclerc 20e devant Glock, mais même devant Petrov, devant une KTM. Mm-hmm.
Et en soi, il est surtout pas très loin. Je crois qu'il est à 1/10 de Kovalainen. Mm-hmm. Donc ils étaient tout fous chez Marussia.
Mm-hmm. En Q3, Romain Grosjean à la 10e place, Massa 9e, Rosberg 8, Alonso 7, pas terrible quand même pour les Ferrari, hein. 7 et 9.
C'est bon Shinji, c'est bon. On a compris, car Kimi Raikkonen il a gagné, maintenant tu vas lâcher un peu la grappe au pilote Ferrari, et merci. Non Shinji, c'est bon.
Button 6, Raikkonen 5.
Ah c'est bon Shinji,
j'ai rien dit. Maldonado 4, Vettel 3e seulement, même s'il a eu des problèmes, notamment samedi matin, avec les freins, ce qui fait qu'il a quasiment pas tourné. Weber 2.
Mais globalement, ils ont eu pas mal de problèmes, hein, chez Red Bull ce week-end. Frein, Kers, vendredi après-midi sur la Red Bull de Weber.
Toujours. Kers égale problème chez Weber. Weber qui fait 2, mais surtout pole de Lewis Hamilton. Qui à ce moment-là, même au niveau des essais libres, il domine complètement le week-end.
Ouais.
Et sur le coup, on se dit que ça va même être une balade de santé à Abu Dhabi. Hein.
Ouais, à ce moment-là, ouais. Mais visiblement, la santé, il l'avait pas vraiment.
La voiture n'avait pas la santé.
Oui. Non, mais celui est tout le temps en forme en ce moment.
Et tout sourire.
Donc, à noter, Charlie, donc, il y a eu le déclassement de Vettel, hein, on l'a dit, hein. Il a eu exactement la même sanction qu'Hamilton.
Oui.
Voilà. Ils ont reconnu qu'il y avait eu un problème technique sur la voiture.
Oui.
Mais, voilà, ils n'ont pas pu, ils ont
C'est-à-dire qu'en fait, voilà, contrairement à Hamilton, où ils n'avaient pas vu le cas, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous arrêter en piste, le règlement dit que vous avez, donc, le pilote doit être capable, en fin de qualification, de rentrer par ses propres moyens au stand. Et donc, ça, c'est une première chose. Si le pilote ne le fait pas, automatiquement, l'écurie et le pilote sont convoqués devant les commissaires pour s'expliquer. Là, effectivement, la FIA a bien reconnu qu'il y avait un cas d'extrême urgence et compagnie, qu'il y avait un problème technique. Là, c'est un deuxième point du règlement qui s'applique, et le point de savoir est-ce qu'il reste un litre de carburant à prélever dans le réservoir. Et là, ils ont pu prélever que 850 millilitres. Alors, quand on écoute un petit peu les mecs de chez Renault, ils ont l'air de sous-entendre qu'il y avait plus de carburant dans le réservoir, oui. Mais que ils ont réussi à en retirer que 850. On sait pas comment. Mais voilà, ils ont réussi qu'à vider partiellement le réservoir. Ah voilà, c'est assez bizarre.
Ouais. C'est vrai que les explications de Red Bull et Renault, il y a peut-être eu un problème technique. Hein. Maintenant, ils ont peut-être tout simplement essayé de jouer.
Et surtout que derrière, je crois que t'as Christian Horner qui a dit hier. Christian Horner a quand même dit que c'était une erreur humaine. Donc attendez, il y a un pépin technique ou il y a une erreur humaine? C'est juste, j'aimerais savoir.
Donc il s'est, alors à l'origine il était rétrogradé à la 24e place, mais comme ils en ont profité donc pour changer les réglages sur la voiture, il est parti des stands. À noter alors.
Et du coup il est parti 23e puisque de la Rosa, voilà. Il y a une couverture chauffante qui est restée accrochée à sa
il
voiture.
Voilà, parce que de la Rosa en effet était classé 22e, mais c'est, ils avaient quand même pas juste oublié une couverture chauffante.
Non, mais en fait, je pense qu'ils ont dû, au moment où la sonnerie indique au personnel de dégager la piste, ils ont dû vouloir partir et il y a une ficelle apparemment qui s'est coincée dans une suspension ou je sais pas quoi, une ficelle de la couverture chauffante, et donc la couverture chauffante était restée accrochée par la ficelle à l'arrière de la voiture.
Dira.
Donc là, ils se sont dit, on part, quoi. Ouais. Plutôt que de créer une nouvelle cérémonie,
une séquence.
Une
nouvelle séquence.
Ah, je me rappelle avec la grande question. Oui, mais alors Vettel, quand il part au rouge, il va partir à quel moment? Parce que quand il va sortir du tunnel, est-ce qu'il va se retrouver au beau milieu? Non, mais rassurez-vous, le truc passe au vert quand les autres sont bien passés, hein.
Oui, parce que c'est techniquement, le feu, la voie des stands passe au vert quand le dernier pilote a passé la ligne de sortie des stands. Voilà. Enfin, la ligne de sortie des stands. Sauf que là, la ligne de sortie des stands, elle est après le virage 1 dans le virage 2. Donc, en fait, il était convenu, ils ont un peu adapté le règlement. Enfin, il a un peu adapté la procédure, c'est quand la dernière voiture a disparu du virage,
voilà.
On laissait partir les deux voitures, parce qu'il y avait donc la Red Bull et la HRT de la Rosa, on les laissait partir des stands.
Et donc c'était la 25e pole pour Lewis Hamilton, la 154e pour McLaren, la 90e pour Mercedes. Ouais. Quelque chose me dit qu'il n'aura pas forcément la centième pour Mercedes. Hein.
Et puis vu que Sergio Perez va être champion du monde l'année prochaine.
Oui, bien sûr. Mais ouais, Sergio, si tu roules chez McLaren comme tu roules en ce moment chez Sauber, ton contrat pluriannuel, il va plus être pluriannuel. Hein.
Surtout qu'ils ont dit qu'ils voulaient bien reprendre Lewis Hamilton, donc déjà dès le départ, ça met en confiance.
Et Dino, on va passer au top 10.
Oui, le top 10 de la course.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
En 24e position, nous avons justement Pedro de la Rosa, qui n'a marqué aucun point. À noter qu'à titre de comparaison, et là, je tiens à vous dire, chers auditeurs, poditeurs, téléspectateurs et compagnie, bravo, car on a battu ce week-end, c'est assez bizarre, je ne comprends pas pourquoi, on a battu le record du nombre de voix, du nombre de points distribués au leader.
Oui, avec 8,640,243 points.
Oui, à peu près.
À peu près.
Tu arrondis un peu, c'est 3012. Ouais. Ensuite, en 23e position, nous avons Vitaly Petrov avec 2 points. 22e position, Kartikeyan avec 5 points. En 21e position, Timo Glock, 11 points. En 20e position, Nico Hülkenberg, 40 points. Nico Hülkenberg a eu... Ça m'étonne toujours qu'il ait 40 points. Mais là, c'est pas du tout un coup de gueule, mais c'est juste, voilà, si vous pouvez juste me dire pourquoi Nico Hülkenberg 40 points, il a fait 100 mètres, il a fait une de punier, donc c'est toujours un terme. Il a fait 100 mètres, il a fini dans le bac à gravier, et voilà, c'est peut-être pour la qualif, peut-être.
Ouais. Hülkenberg, ouais, il a fait une qualif devant son
ouais, c'est peut-être
collègue,
ça, ouais.
Donc,
voilà. La qualif,
ouais. C'est peut-être pour fêter son contrat sober.
Peut-être aussi, ouais, c'est pas belge. Ensuite, 19e, Sergio Pérez, 70 points, c'est pareil. Ah, mystère.
18e, tu penses qu'il aurait dû en avoir moins ou plus?
10 fois plus.
Oh, arrête.
18e, Mikki Kovalainen, 72 points. 17e, Charles Pic, 118 points. 16e, Nico Rosberg, 124 points. Ça, c'est parce qu'il s'est envolé. Hein. 15e, Ricciardo, 144 points. 14e, Di Resta, 148 points. 13e, Vergne, 202 points. Là, l'écart, il est bien. 12e, Weber, 311 points. Et Mr. Eleven est de retour. Eh oui, c'est Mikki Schumacher, 342 points. À savoir quand même que ça s'est joué à 4 points pour entrer dans le top 10.
Ça, c'est pas parce qu'il aurait été 10e dans ce cas-là en plus. Hein.
Oui.
Donc, parmi nos votes, Alex, tu as donné un point à Kovalainen.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut peut-être juste que j'explique comment je vois mon classement. Donc, on a les premières positions. Là, on en reviendra après dessus. Là, je pense que il y a pas de problème là-dessus. Par contre, après, je me trouve confronté toujours. Je dis, j'aime bien utiliser les dernières places pour quand même donner des points à des pilotes qui sont justement pas rentrés dans les 10, mais qui méritent. Et en général, souvent un par équipe. Donc, personnellement, moi, j'avais hésité à mettre Hülkenberg à un point, justement, pour sa qualif devant son coéquipier. Et sur les dernières places, justement, j'ai chaque fois un pilote des écuries qui sont pas ou qui sont quand même rentrés dans les points pour donner des points par rapport à ce qu'ils ont fait dans le long du week-end. Alors là, en l'occurrence, ben, Kovalainen, pour moi, il est toujours devant Petrov. Il y a pas photo. Voilà pourquoi je le mets à un point.
Sinon, tu as aussi donné 4 points à Ricciardo.
Ah, c'est bien.
Tu n'as même pas donné de points, toi.
Mais non, mais voilà. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui donne des points à Ricciardo.
Ça existe, ça arrive.
Voilà, tout à fait. Depuis le fond, je suis parti Caterham, j'ai mis Kovalainen. Juste en dessus, en 9e position, j'ai mis pour la Mercedes, j'ai mis Rosberg. La position par rapport à Michael, ben voilà, ces dernières courses, il a vraiment marqué le point. Oui, et Rosberg, là, on peut vraiment dire qu'il a fait son DiCaprio ce week-end.
Oui.
Il a pris son envol.
C'est quand même un manque de cumulance, quoi, parce que se retrouver pile derrière la HRT à ce moment-là.
Moi, ce qui m'a beaucoup, je dirais, choqué dans ce week-end, c'est que tout le monde a parlé de Rosberg. Faudrait peut-être juste dire que à Spa, on a une Lotus qui passe à 30 cm de la tête d'Alonso. Là, on a une Mercedes qui passe au-dessus de la tête de Kartikeyan. Oui. Je sais, tout le monde s'en fout, mais on peut quand même louer ceux qui ont exigé que Yale ait la structure. La cellule de survie, parce que sans ça, Kartikeyan, il était décapité, quoi. Heureusement que les Formule 1 sont conçues pour avoir un certain débattement avec la boîte à air au-dessus de la tête du pilote, parce que là, c'est passé à 30 cm, on n'avait plus de Kartikeyan.
D'ailleurs, quand même, autant, bon, Rosberg, il s'était craché, pouf, 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 c'est bon, je me suis relevé, ah, tiens, je vais aller prendre du Monster sur mon yacht. Autant que, non, mais c'est vrai, il s'est détaché à une vitesse, bon, c'était rassurant. Kartikeyan, quand même, d'ailleurs, je crois qu'il est passé au centre médical après, il devait avoir quand même bien mal au dos après ce qui s'est passé.
Non, puis alors c'est pareil, tout à l'heure tu faisais un drive-through, enfin, déjà direct derrière tu vois sur Twitter des gens qui critiquent Kartikeyan et compagnie, et là il est pour rien, quoi. Ah non, là, c'est un premier tour lit qui perd sa direction, il est malheureusement obligé de lever le pied, sinon c'est lui qui se sort tout seul. C'est vrai que certains auraient peut-être préféré qu'il se sorte tout seul, mais faut pas oublier, c'est qu'ils ont aussi leur course à faire. Problème de direction, Rosberg lui-même le dit, voilà, c'était inévitable. Voilà, à un moment donné, faut aussi comprendre que ces mecs-là sont aussi là pour faire la course et qu'ils peuvent pas non plus se mettre sur le côté tout le temps, surtout quand ils ont un problème technique, faut pas leur demander l'impossible.
Là, ça a été tellement soudain, le fait que Rosberg soit vraiment juste derrière pile à ce moment-là, voilà, faut surtout, voilà, aujourd'hui, faut surtout être heureux que les deux aillent bien, quoi, mais c'est surtout ça le plus important. Mm. Sinon, Dino, tu as donné 4 points à Di Resta.
J'ai fait ça, moi? Ah, mon Dieu. Hein? On n'est pas nombreux à lui avoir donné des points.
Non, il est quand même un peu à l'origine du domino D, là, un peu, quand même.
Ouais. Mais c'est lui qui est à l'origine ou non?
C'est Perez.
C'est Perez qui percute, mais si tu veux, c'est dans la baston qu'ils ont, et Perez, il sort pas de la piste pour rien.
Perez a été sanctionné pour ça, parce qu'il a pas laissé la distance suffisante pour que Di Resta reste sur la piste. Donc, Perez a forcé Di Resta à sortir sur la gauche, sur l'herbe, et c'est après que Perez, en se disant, ben, peut-être, il aura les pneus sales ou comme ça, qu'il a tiré très fort sur la droite. Mais à l'origine, c'est Perez qui a pas laissé la place à Di Resta. C'est pour ça qu'il a été pénalisé.
Sergio Perez, lui, est parti à l'extérieur, il est revenu comme un malade, sans se préoccuper de qui était derrière. Oui. Et que c'est là vraiment que l'accident provoqué. Donc, les torts, oui, reviennent vraiment à Perez, parce que, bah, malheureusement, c'est lui qui s'accroche.
Et sinon, donc, sur la course de Di Resta.
Alors moi, sur Di Resta, c'est plutôt l'accident du début, parce qu'il est quand même pris en, donc il est pris dans l'accident du début qui élimine Hülkenberg. Enfin, on a, les deux Force India, je crois, qui se touchent. Il y a Di Resta qui il Reyes, un bout d'aileron, donc il doit repasser au sort au premier tour. Il y a ensuite moi Senna qui est aussi foutu en dehors de la piste, et ça fait
sur le week-end, il y en a quand même beaucoup. C'est ça, c'est le problème d'Abu Dhabi, c'est les grandes étendues de bitume autour de ils ont tous coupé les lignes.
Il y a d'abord coupé les lignes, et ça c'est un peu le problème du circuit. C'est comment, il y avait le grand débat sur à la sortie du pont, est-ce que aller en dehors de la ligne, enfin être sur la partie bleue, est-ce que c'est coupé ou pas. Il y avait apparemment Warwick, il avait des questions existentielles et qu'il allait poser des questions à Jacques Lafitte, genre tu sais Warwick, il a une question existentielle. Après c'est, je pense qu'il suffirait juste de mettre le rail et puis c'est bon quoi. Voilà, c'est le rail la limite à cet endroit là. Je pense surtout le problème, c'est comme les pilotes savent que c'est un circuit où il est difficile de doubler, dès qu'ils tentent un truc et dès qu'ils ont une opportunité, ils la jouent à 100% quoi. Et c'est vrai que sur le week-end, il y a quasiment aucun dépassement qui a été, pour ainsi dire, propre.
Vettel a rendu sa place, hein, parce que c'était quand même sur le coup, tout le monde s'est dit. C'était super litigieux.
Mais quasiment dans tous les dépassements, ça a un peu frotté ou ça a été un peu limite, parce que les mecs savent très bien que c'est tellement difficile de dépasser sur certains. Bah Weber, mais même au début, enfin t'as Vettel qui s'accroche, enfin qui perd d'ailleurs un bout d'aileron sur Senna. Voilà, les mecs se disent tellement si je passe pas tout de suite, j'aurai peut-être pas d'autres opportunités derrière, parce qu'ils savent très bien que l'histoire du circuit, notamment le précédent Alonso avec Petrov en 2010, que tout ça montre bien que c'est un Grand Prix où il est difficile de dépasser. Donc je pense que les mecs, perdent une position, c'est peut-être aussi ce qui explique la manœuvre de Perez, c'est perdre une position. Je fais tout pour en gagner une et je fais tout pour pas en perdre, parce que si tu perds une position, tu sais très bien que tu peux potentiellement t'embarquer perdre beaucoup de temps. Donc on était sur la course de Perez, Di Resta, moi ce que j'ai aimé, c'est que ça fait partie des remontées. Il y a une remontée qui a beaucoup fait parler et qui a été très spectaculaire, mais on oublie qu'il y en a deux autres qui finissent dans les points, soit ont eu des problèmes au premier
rang. Il y en a eu de belles.
Il y a quand même d'autres mecs qui ont fait des remontées et qui n'avaient pas forcément les atouts ni la voiture qu'avait Vettel avec sa voiture. Mais j'y reviendrai plus tard.
D'ailleurs, on va passer à la 10e place. Il a marqué 346 points. C'est Romain Grosjean. Toi, tu lui as donné un point. Moi, je lui ai donné 4 points. Justement, moi, je l'intègre justement dans ceux qui ont fait des remontées, parce qu'il faut se rappeler de ce qui lui est arrivé au premier tour. Au bout d'un tour, il se retrouve dernier. Et quand il a cet accident, il est 5e. Alors certes, malheureusement, il y a eu cet accident avec Perez, mais voilà, c'est une des remontées justement qui est un peu passée sous silence, malheureusement aussi parce que malheureusement il n'a pas fini la course. Sur le coup de l'accident, je pense ne pas être le seul. Je suis devenu un peu blanc, parce que forcément, tout de suite, tu te dis, putain, c'est encore Romain.
T'es pas déjà blanc, Shinji?
Oui, mais encore plus.
Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais il me semble la dernière fois que je t'ai vu, t'étais blanc.
Oui. Mais disons que voilà, sur le coup de l'accident, tu te dis, putain, ça tombe encore sur Romain. Qui pour le coup n'est absolument pas responsable de ce qui lui arrive.
Mais c'est ça qui est le problème, quoi. Oui, c'est que encore une fois dans un incident. Voilà. Et quoi qu'il arrive, d'ailleurs ils l'ont très bien dit les commentateurs pendant le Grand Prix, c'est que malheureusement quoi qu'il arrive, on va dire encore Grosjean qui est impliqué. Et c'est vrai que c'est dommage. À noter quand même qu'il a été blanchi par Rosberg sur le premier incident c'est à la première chicane au bout de la ligne droite il commence à m'énerver Lagorce. Lagorce a essayé de prouver dans dimanche F1 que c'était complètement de la faute de Grosjean. Lagorce en ce moment il a applaudi Grosjean en début d'année, puis maintenant son chouchou c'est Vergne et Grosjean, c'est dès qu'il peut le mettre en rater et compagnie, dire qu'il est brimé et compagnie, dès qu'il peut critiquer, il y a strictement rien. C'est-à-dire que c'est même le pire, c'est qu'on peut pas du tout nous juger de l'accident dans la mesure où on a qu'un seul point de vue, qui est la caméra embarquée de Romain Grosjean. Sauf que la caméra embarquée de Romain Grosjean ne nous enseigne strictement rien sur la position de Nico Rosberg au moment de l'incident. On ne sait pas exactement à quel niveau il se trouve ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment, pour le coup, on peut pas vraiment juger l'incident et on peut juste se fier à ce que dit Nico Rosberg, qui a déclaré après la course qu'il y avait strictement rien à dire sur l'incident et que c'était pas la faute de Romain Grosjean. Je pense que c'est ça aussi qui est encourageant, c'est que il y a quand même des pilotes dans le paddock qui sont intelligents, qui savent taper sur leurs petits camarades quand ils font de la connerie. Mais je pense qu'il y a aussi chez les pilotes, et notamment chez Rosberg qui est pas un méchant garçon, la volonté de pas forcément non plus jouer sur ça et la conscience de dire bon c'est quand même un de nos confrères, il est pilote. En ce moment il est sous le feu des critiques. Il a été dans un incident avec moi, je vais quand même aller voir la presse en disant non mais il a rien à se reprocher. Je sais qu'il est beaucoup critiqué en ce moment. Mais là sur l'incident, il a rien à se reprocher. Et c'est, vraiment, on doit saluer Rosberg pour ce qu'il a fait, parce que je suis convaincu qu'un mec comme Weber ne l'aurait pas fait.
Et puis bon, après sur Perez, voilà, il est à l'intérieur de son virage, lui, il espère passer tranquille pendant que Perez est dehors, et boum quoi.
Mais là, on peut rien reprocher à Grosjean. Ah ouais. Quoi. Il voit une porte, il peut pas se dire, je vais le laisser rentrer sur la piste. À ce moment-là, Perez
est en dehors de la piste. En plus, c'est même pas comme s'il était, par exemple, à l'extérieur. Non, il est à l'intérieur du virage.
Mais c'est juste, c'est que, on a l'impression, quand tu lis certaines personnes, c'est que c'est limite Romain Grosjean qui a à un moment donné, au moment où Perez, il est en dehors de la piste, il n'existe plus. Donc les autres, ils sont sur la trajectoire de course. C'est à Perez de faire attention quand il revient sur la piste. C'est pas aux autres de faire attention à Perez. C'est à Perez de faire attention. Et Perez, pas une seule fois, il a levé le pied en étant dehors. Il est revenu sur la piste comme un malade. C'est de la faute essentiellement de Perez. Grosjean, il a rien à se reprocher. Même derrière, encore une fois, Lagorce qui est allé nous dire, ouais, il a tourné un peu le volant sur la gauche. Il a pas pris suffisamment de place. Enfin, en même temps, je sais pas, Lagorce, il a quand même été pilote de course. En même temps, ça se passe à une vitesse. Il voit une voiture qui fait un tête à queue à côté de lui. Moi, je sais pas. Mon réflexe, c'est de m'éloigner de l'incendie. Donc, du coup, je vais plutôt aller vers la gauche. Et puis, ça se trouve, c'est juste un mouvement réflexe. Bah non, c'est quasiment la volonté de Grosjean d'aller emboutir Weber. Non, mais c'est bon, les gars, arrêtez, quoi.
Oui, enfin, Weber, c'est un dommage collatéral, hein, pour le coup.
Mais c'est un peu ça, Weber.
Ouais, c'est un peu tout le temps un dommage collatéral.
Je vais dire, Weber, voilà, c'est le dommage collatéral.
Allez, 9e place, Bruno Senna, 402 points.
Non. Mais on n'a pas pensé à demander, parce que Romain Grosjean, il est quand même franco-suisse.
C'est vrai.
Alors, on n'a pas pensé, Alex, vous en Suisse, vous le considérez comment, Romain Grosjean?
Ben, on le considère pas, parce que vous l'accaparez. Il est entièrement français pour vous. Mais, j'ai quand même été voir, il est né à Genève, donc, il est suisse. Je sais pas s'il roule avec une licence française.
Il roule avec une licence française.
Il a un passeport français et une licence française.
Ouais. Voilà, il est franco-suisse.
Et un de ses parents est français.
Ouais. C'est noté sur son parcours franco-suisse. Donc voilà, mais bon, écoutez, je vous le laisse.
Non mais de toute façon, c'est pas difficile. Entre la France et la Suisse, il y a un accord qui date de 1633 qui dit que tout pilote de Formule 1 franco-suisse est français quand il gagne, mais suisse quand il perd. Exactement. Là, ça fait 6 mois à peu près qu'il est suisse. Voilà. Là, on vous le laisse. On récupérera la garde au mois de mars prochain.
Donc Senna 9e avec 402 points. Moi je lui ai donné 1 point, Dino tu lui as donné 6 points.
Ouais, pour la remontée, puis pour un week-end qui globalement a été dans la ligne de ce qui fait plus quelques grands prix quoi. Mais c'est ce qui m'énerve avec Senna quoi, c'est...
Passons à la 8e place dans ce cas-là, moins qu'à non Alex non plus Senna, t'as pas donné de points donc
Non, justement par rapport à ça dans les Williams, j'ai donné des points à Maldonado et voilà, Senna justement, j'arrive pas à le catégoriser, à lui dire voilà, il est constant, pas constant, c'est difficile.
Allez, 8e place, Massa, 416 points. Moi je lui ai donné 2 points pour être honnête, surtout au classement, on n'a pas c'est beaucoup vu. En plus, il a pas franchement aidé Alonso.
Non.
Voilà, donc à la limite, un de ses objectifs, c'était peut-être de pouvoir bloquer Vettel, une possible remontée de Vettel. On peut pas dire que c'est beaucoup marché.
Non. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, Shinji? Voilà, on a eu l'impression d'un revival, quoi.
Un revival.
Tous les fans de Ferrari m'ont un peu vécu ce grand prix en disant merde. Ah non, on y croyait. Voilà, c'est. On espère, j'espère que les deux prochains Grands Prix, il va revenir un peu dans ce qu'il nous a montré lors des dernières courses, parce que là, il a été transparent.
Puis Alonso, on a besoin, c'est ça, il a sans doute jamais eu autant besoin de Massa que pendant les deux prochains Grands Prix.
Oui, non, mais c'est ça le pire, c'est que même là, sur ce Grand Prix, où il aurait pu aider Alonso, parce qu'il y avait la configuration de la course fait qu'il aurait pu l'aider, il finit septième, c'est ça, Massa?
Ouais.
Alors, il finit septième, en sachant qu'il y a eu des abandons devant lui, il y a eu des incidents devant lui, et il finit à la position où il est parti.
Là, ouais.
Felipe, qu'est-ce que tu fous?
Non, Massa, il est parti 8. Donc, il a gagné une place. Mais pour moi, Massa,
Non, il est parti 7, parce que, à cause
non,
de Vettel.
Non, il est parti 8. En effet.
Non, il est parti 8.
Ils ont fait 7 et 9.
Ah oui, il y a un pilote intercalé, c'est vrai.
Et Rosberg entre deux.
Il y avait Rosberg et intercalé.
Voilà, Massa finit derrière une Sauber. Est-ce qu'il laisse passer les Sauber pour retrouver un baquet en 2014, retourner dans son équipe du départ?
Qui commence à l'y penser.
Voilà.
Ah ben maintenant, ça y est, il envoie les CV lui aussi.
Il va faire un sacré club avec Barrichello.
Ah oui.
Non mais ce qui est bien, c'est que c'est un bureaucrate de la F1, donc il sait faire les papiers.
C'est vrai. septième place, il a marqué 554 points, c'est un pilote sauveur, c'est pas Perez après la course qu'il a faite bien sûr, c'est Kobayashi. Je lui ai donné 6 points, comme Alex, Dino, tu lui as donné 8 points.
Et je voudrais vraiment insister sur un point qui est important. Sauber ne veut pas se débarrasser de Kobayashi. Sauber n'est pas une écurie qui n'aime pas Kobayashi. Sauber est juste une écurie qui a besoin d'argent et qui ne pourra garder Kobayashi que s'il amène des sponsors. Voilà, c'est parce que on dit souvent sur les commentaires, dire que Sauber veut pas le garder. Mais Sauber, il voudrait bien le garder. Mais le problème, c'est ils veulent le garder, mais en même temps qu'ils ramènent de l'argent. C'est la donne de beaucoup d'écuries. Force est de constater que Sauber, même s'ils ont l'argent de Carlos Slim, bah, ils ont pas non plus un compte en banque qui est à rallonge. Ils ont déjà recruté Hülkenberg, qui doit sans doute aussi apporter une partie de sponsors et de la visibilité à l'écurie.
Faut rappeler qu'Hülkenberg.
Suisse, en plus, c'est important.
Et puis, faut se rappeler qu'Hülkenberg, s'il était parti de Williams, c'était pour des questions financières.
Oui.
Donc, en plus, il a peut-être revu un peu la baisse, mais c'est pas le moins cher, normalement, Hülkenberg.
Voilà. Donc voilà, c'est puis Hülkenberg, c'est un pilote allemand et on sait que Sauber, ils ont la petite musique dans la tête qui essaie d'avoir un constructeur allemand Volkswagen pour pas le citer ou peut-être Mercedes pourquoi pas à l'avenir si jamais ça se sépare entre Mercedes et McLaren. Donc effectivement, un pilote allemand est important pour eux. Maintenant, il faut juste que Kobayashi, il amène de l'argent. C'est vrai qu'il fait des super courses, on en voit encore ce week-end, il fait une course solide, il est dans les points contrairement à son coéquipier, il fait le travail qu'on lui demande de faire, c'est une valeur sûre. On aimerait tous qu'il reste chez Sauber. Et maintenant, faut aussi comprendre qu'il y a aussi cette donnée financière derrière, qui est valable pour tous les pilotes en dehors des 4 ou 5 premières équipes. Si t'as même pas du pognon, t'es pas en Formule 1, quoi.
Là, il a fait ce qu'il avait à faire pour pouvoir essayer d'aller chercher du pognon. Parce que,
au classement général, il recolle même à Perez. Hein.
Ouais. Il est juste derrière.
Mais c'est ça aussi la différence entre les deux pilotes, c'est que à la fin de la course, Perez vous dit quand même, oui, au début de course, je croyais le podium possible. Voilà. Perez aujourd'hui, il
garde son discours pour l'an prochain.
Il se sent plus pissé. Il se voit déjà champion du monde l'année prochaine et compagnie. Il vole 3000 km au-dessus de son propre corps. Il se voyait déjà se battre pour le podium. Là où Kobayashi, lui, il se voyait juste battre pour des points, pour jouer la position et compagnie. Perez aurait fait pareil. Il serait à 5 ou 6 points seulement de Mercedes à 2 courses de la fin. Là, ils sont à 12 points. C'est plus la même donne.
Tu veux rajouter sur Camus?
On espère le revoir pour la suite.
Oui, il mérite sa place en F1 quand même.
Tout à fait, oui.
Dans ce cas-là, on va passer à la sixième place. Et là, vous allez voir, au niveau des scores, ça commence à se détacher. Puisque si Kobayashi avait 554 points, le sixième a marqué 921 points. Je lui ai donné 8 points, comme Alex. Dino, tu lui as donné 10 points. C'est sans doute sa meilleure course depuis l'Espagne. ça l'est en plus, vraiment.
Ouais.
C'est Pastor Maldonado.
Qui a eu un problème de kers, qui a très bien tenu la dragée au début de course, et qui a eu un problème de kers après la première safety car apparemment où il a perdu le kers, donc du coup il était sur la défensive un peu comme Marc Weber il y a quelques semaines, sauf qu'il a pas une Red Bull entre les mains, il a qu'une Williams.
Déjà,
un peu plus pénalisant.
Déjà à la base il y a une très bonne qualif, puisqu'il est troisième sur la grille de départ, et il a tenu son quand même.
Une belle qualif, un bon départ, et puis après voilà, il y a ce problème de kers qui fait que il est repris par des pilotes aussi, notamment Alonso qui était plus fort en course qu'en qualification.
Finalement il y a que Alonso, mais on sait que la Ferrari comme tu dis est meilleure en course en qualif, et Vettel sinon c'est tout, hein. Après c'est les deux seuls, hein. Parce que si je regarde,
il y en a qui ont essayé. Voilà.
Enfin, il avait perdu des places, mais c'était par rapport aux arrêts, quoi. Mais rien de. Ouais. Sinon, oui, voilà, il a toujours été entre la troisième et la cinquième place.
Et toi, Alex?
Pour moi, résultat global de la course. Donc, pour moi, je lui ai aussi donné 8 points. Très belle course. Rien de particulier d'autre.
On se réserve pour la fin.
Exactement. Ouais.
Là, on passe au top 5, parce que là, le top 5, il se distingue quand même. Hein. Enfin, quoique le cinquième...
Oui, il y a plus 5-6 ensemble, et après, ça décolle.
Ouais, parce que donc cinquième, il a marqué 1144 points. Je lui ai donné 10 points, comme Alex. Dino, tu lui as donné 12 points. C'est Jenson Button. C'est pour ça qu'il se distingue peut-être moins, tu vois, même par rapport à Maldonado. Il a pas eu une course facile. Là, il a encore dit qu'il comprenait plus la Williams, la McLaren.
Ah bah il dit c'est ma plus mauvaise saison. Bon, en même temps, c'est vrai que...
Non, 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 c'est la plus mauvaise saison avec McLaren.
Oui, avec McLaren.
On serait bien d'accord.
Il y a un Button avant et après McLaren. Mais non, oui, c'est vrai, quand tu regardes les chiffres, oui, c'est sa, entre guillemets, c'est sa plus mauvaise saison. Ça, on l'a très vite compris cette année. Je crois que déjà, dès l'Espagne, facilement dès l'Espagne, on s'est dit, ah, c'est pas sa saison, peut-être. Mais il fait une belle course. Il est là, il est pas saignant, il peut pas faire grand chose
par rapport à d'autres, mais vu que faut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui se sont vraiment distingués ce week-end.
Ouais.
À Button sur les fins de Grand Prix ou à partir du milieu du Grand Prix, il fait des belles choses. Hein, fin de maintenant, les meilleurs tours à la fin ou bien là vers le trois quarts du Grand Prix, il était pas mal. Hein, il a s'est défendu tant qu'il a pu. Voilà.
Ouais, il a bien menacé Alonso.
Il est remonté un peu.
Justement, en étant coincé derrière Alonso, peut-être qu'il a perdu aussi un petit peu de ses pneus avant et
ouais, parce qu'il se fait
voilà. 4 tours de la fin. À la fin, voilà, donc c'est une belle course. Je fais pas grand chose. J'ai envie de comparer. Alors je vais me faire frapper par certains. C'est un peu une course à la Raikkonen, c'est-à-dire que si on compare un peu les deux, c'est un peu pareil. Ils méritent complètement leur place. Maintenant, dans leur course, il y a pas forcément de c'est pas forcément formidable leur course. Ils ont juste fait la course qu'ils pouvaient faire avec leur matériel, avec des destinées différentes, ça c'est sûr.
Mmh. Allez, à la quatrième place, il a marqué 1618 points.
Et c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Mais moi, je lui ai donné 12 points comme Alex. Dino, tu lui as donné 15 points.
Oui, mais parce que je pense qu'on a le même classement, mais qu'il y a juste un pilote qui change.
Ouais, mais t'es quand même un putain de donneur de leçons. Quand tu parles des ratios entre distance parcourue et points.
Mais non, là, c'est pas une question de distance parcourue. Sincèrement, si on vous demande sur le début de la course, qui vous voyez gagner?
Mais oui, oui, oui.
Sincèrement, que ça peut lui échapper.
Et tu t'appelles,
personne
voilà,
pense que ça peut lui échapper, quoi. Quand à l'émile, c'est un mec qui fait une course, et qu'il abandonne et bon, qui pouvait faire le podium, tu lui donnes un point, deux points. Là, le mec, il pouvait gagner la course. Enfin, ça fait même quasiment aucun doute.
Oui, voilà.
Quand on voit le rythme de fin de course de Button et compagnie, ça fait quasiment aucun doute qu'il gagnait la course.
S'il est pas même mécanique. C'est Hamilton qui est quatrième.
Oui, c'est vrai, on a oublié de le dire.
Au cas où ils auraient pas compris.
Donc voilà.
Non mais c'est vrai, faut l'avouer, c'est vrai que avant son problème, il était sur une voie royale. Hein.
Elle pouvait pas lui échapper.
C'est là que Jean-Luc Moncel a dit oui.
Mais c'était pas bien ça.
Je suis convaincu que c'est parce que au même moment, Malbranck commençait à remarquer que c'était Hamilton, et je pense qu'il voulait dire en fait à Malbranck, dire oui, c'est Hamilton. Mais là, il y a aussi un temps d'arrêt.
Dans l'intonation, c'était pas spécialement. On a l'impression qu'il avait l'air très content quand même. Hein.
Oui, mais voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup quand même, c'est les gens sur Twitter. Oh, il est content à cause d'Alonso. Non, mais c'est pas Alonso qui bénéficie de l'abandon d'Hamilton. Hein. En premier lieu, c'est pas Alonso. Alonso, il marque un peu plus de points, c'est vrai. Mais je crois que le premier bénéficiaire, c'est pas Alonso. Mais ce qui était intéressant, c'est que je pense qu'il y a eu un petit temps d'arrêt dans ces oui, il y a eu un petit temps d'arrêt où je crois que dans sa tête a traversé l'idée qu'il était peut-être un peu partisan. Parce qu'on peut pas l'interpréter. Et à la fin, il y a un petit changement de ton, genre oui.
Bien, on a eu beaucoup de oui. Ce week-end.
Oui.
On en reparlera.
Oui.
Quelque chose à rajouter sur les 20. En plus, ouais, c'est.
29.
Non, j'ai 19, moi, pression d'essence. Il me semblait que c'était plus 21, 22, mais c'était peut-être.
J'ai noté 20, Hamilton out.
Ouais, 19, 20.
Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'il a même pas fait la moitié de la course.
Mais on s'en fout.
Bon, non, mais voilà, quatrième, voilà. Il menait 12 points, il menait de la tête et des épaules, et la victoire, elle était pour lui, donc en premier, justement, ceux qui étaient là, mais il avait quand même droit à des points, et c'est pour ça qu'il y a le classement du SAV.
Mais voilà. c'était déjà avant même la course, c'était déjà une course folle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai tweeté à un moment, parce que je suis tourné vers l'horloge, puis je vois 14 pas au niveau de l'heure, je vois 29 tours. Je fais mais on est qu'à la mi-course. Et en effet, tout le Grand Prix a été comme ça. Allez, dans ce cas, on va passer à la troisième place, on est déjà au podium. Il a marqué 2140 points. Quand même, à 2140 points, il y a plein d'autres circuits où le titre serait arrivé premier, hein, au classement du
premier. Ouais. Là, c'est troisième avec beaucoup de retard. Se rappelons que le premier a donc 3000
points.
Il a
3 milliards de points, rappelons-le.
À peu près.
Voilà. Je lui ai donné 15 points. Alex lui a donné 15 points. Et donc, Dino, tu as choisi de ne lui donner que 2 points. Explique-nous pourquoi tu n'as donné que 2 points à Sébastien de Vettel.
Parce que j'ai commencé, comme je pense beaucoup d'entre vous, à le mettre troisième sur le podium, parce que c'est vrai qu'il fait en extérieur une très belle course, une belle remontée et compagnie. Maintenant, c'est vrai qu'on peut retenir le fait qu'il a quand même été aidé par la voiture sécurité, pas au sens où il a forcément gagné des positions, parce que même des fois, il en a perdu des positions.
Même, il y en a qui ont dit, oui, il part 24e, il a fini troisième, mais il fait une double remontée. Pas, il fait pas 24-3, non, il fait 24, c'est combien déjà?
13 ou 15, je crois.
Au 13e tour, il repart de nouveau dernier.
Il fait 24-11, 23-3.
Oui. Mais on peut pas non plus négliger qu'il y a quand même deux voitures de sécurité qui resserrent les écarts. Même s'il ne gagne pas de place, ça quand même resserre les écarts. Mais c'est pas sur ça que moi je l'ai pénalisé. C'est pas non plus sur les petites fautes qu'il a commises, parce qu'on peut pas non plus.
J'ai vu qu'il avait dit oui, au final il a fait que 6 dépassements. Je crois me rappeler, c'était l'an dernier à Monaco. Souvenez-vous, Alonso, il avait eu un pépin, il s'était retrouvé tout à la fin, il avait fait une magnifique remontée. Et c'est pareil, quand on avait calculé le nombre de dépassements, en réalité il en avait fait que 2 ou 3.
Mais ensuite, dans les dépassements, il a quand même fait des fautes en course.
Oui.
Le bout d'aileron, c'est pas Senna qui vient lui arracher, c'est lui qui part de trop loin, au freinage du virage 5 ou 6, je crois, je sais plus. Enfin, au bout de la ligne droite, il part de trop loin et voilà, il est un peu optimiste et bon, ça se comprend aussi. Hein, quand t'as une bonne voiture et que t'as envie de dépasser les autres, ça se comprend. Derrière, Ricciardo, il s'est mis à gueuler.
C'est de sa faute, hein.
Voilà, non mais il s'est mis à gueuler, mais t'as juste envie de lui dire, écoute, regarde un petit peu le Grand Prix de Singapour, tu verras que t'as pas de raison de gueuler.
Surtout lui qui est quand même un grand spécialiste de je ralentis à mort derrière la
séparation. Voilà. Mais moi, ce qui fait, sans ça, sincèrement, même avec ça, je l'aurais mis troisième sans problème. Pourtant, quand j'ai fait mon classement, au début il était troisième, et au fur et à mesure où j'avançais, moi je fais un premier top 10 le dimanche, et je le laisse infuser jusqu'au mardi, où là je le saisis et je l'envoie à Shinji, à chaque fois que je regardais le classement, il perdait une place, parce que à chaque fois je me disais, oui, mais lui, il avait une voiture réglée à 100% pour la course. Je ne peux pas m'empêcher quand même de retenir de la performance de Vettel, que contrairement aux autres, qui avaient une voiture réglée dans un compromis course qualif. Lui a quand même pu bénéficier, déjà en partant de la fin, on a vu historiquement qu'avec les pneus Pirelli, c'était pas forcément très pénalisant pour un pilote de pointe, de partir des 4 ou 5 dernières places de la grille, et de remonter, surtout s'il y a des voitures de sécurité. On se rappelle Button, on se rappelle Weber, on se rappelle Alonso aussi, on se rappelle aussi Hamilton, ils ont tous plus ou moins déjà fait ce type de remontée, peut-être avec beaucoup moins de places gagnées au total pendant la course, mais bon, à peu près ça. Mais là, quand même, il y a quand même un pilote qui a une voiture qui est réglée exclusivement pour la course. Les pneus pour la course, les rapports de boîte ont été réglés, la position de la suspension, tout a été réglé. C'est-à-dire que là où les autres, ils avaient une voiture entre les qualifs et entre la course, donc à la fois performante, en même temps endurant, donc voilà, un compromis, lui, il a pu bénéficier d'une voiture qui était 100% pour la course. Et donc, bah, voilà, c'est comme quand un mec a des pneus neufs et compagnie, bah, je peux pas m'empêcher de tenir compte de ce critère. Et même si c'est vrai que la remontée est spectaculaire, j'ai pas pu une seule fois me retirer l'esprit qu'il avait quand même dans la course la meilleure voiture. Tout simplement, et c'est pas un reproche parce que l'écurie a bénéficié d'une faille absolument géniale. Encore une fois, pour moi, Red Bull a complètement mérité son titre de championne grâce à ça, parce que là où on voit que McLaren en Espagne, il pose Lewis Hamilton en fond de grille et il le laisse partir sans rien changer. Eux, Red Bull, ils ont regardé le classement et ils ont dit ah tiens, on pourrait peut-être faire ça, on va faire ça. Ils l'ont fait, ils ont remis toute une voiture à zéro, boîte de vitesse et compagnie, ils ont tout changé. La voiture, elle était nickel pour la course. Bah effectivement, ce que moi je pensais pas croyable, c'est-à-dire qu'il fasse troisième et qu'il fasse un podium, il a réussi à faire un podium. Mais c'est en grande partie grâce à des réglages exclusivement typiques.
Mais tout à fait. Pour moi, Vettel, j'ai aussi beaucoup hésité à le laisser en troisième. J'ai marqué course solide, quand même un peu brouillon. On sentait qu'il était pressé de remonter.
Bah, pour le coup, on peut pas dire que c'est une course de référence pour lui. C'est une grande course.
Tout à fait d'accord.
C'est une grande course qu'il a faite, mais c'est pas une course de référence vu toutes les erreurs qu'il y a eu, vu les conditions. Même s'il mérite, il a vraiment fait un truc énorme. Et au championnat, il ne perd que 3 points. Il perd 3 points, mais finalement, c'est lui qui gagne. gagne au championnat, entre guillemets.
Mais est-ce que c'est lui vraiment qui mérite ou est-ce que c'est son équipe? Moi, j'ai sincèrement envie de donner le mérite à l'équipe qui a pensé à se dire, voilà. Et puis c'est, ça a pas mis 3 heures, hein. C'est, dès que la pénalité est arrivée, derrière, ils ont annoncé, on partira à la voie des stands, on va changer tout ce qu'on peut changer sur la voiture. C'est le génie de l'équipe. Encore une fois, c'est là où on voit le fossé qui sépare. On demande quelle est la recette de Red Bull. Tout le monde dit c'est New Way. Oui, c'est New Way. Mais c'est pas que New Way. C'est aussi toute cette équipe de Christian Horner, des stratèges et compagnie, qui connaissent parfaitement le règlement, qui le maîtrisent, qui le regardent, qui l'épluchent et compagnie, qui connaissent parfaitement, contrairement à tout ce que peuvent dire Mercedes, comme quoi c'est qu'un vendeur de canettes et compagnie, que c'est pas un vrai constructeur. Mine de rien, s'il y a bien une écurie qui a arrivé depuis pas longtemps, a compris comment fonctionnait la Formule 1, c'est Red Bull et pas Mercedes. Voilà, ils ont compris ce qu'était la Formule 1, ils ont compris les arcanes, et ils ont exploité ingénieusement une faille du règlement. Maintenant, c'est vrai que dans le jugement de la course, on peut pas l'oublier, c'est impossible. Et moi, c'est ce qu'il faut quand même qu'on retienne pour l'avenir, comme tu le dis, c'est que c'est pas une course référence. C'est pas une course, moi j'étais plus impressionné par Vettel, c'est pas une course qui me marquera de Vettel, peut-être en nombre de positions, c'est une course qui marquera beaucoup de monde, mais il faut quand même qu'on retienne ce critère-là qui est, il avait quand même une voiture extraordinaire en course, parce que tout simplement, il n'était pas à armes égales avec les autres.
Mais là, tout à fait. Le but de la Formule 1, c'est aussi le règlement. Et on voit avec tout ce qui est technique sur le châssis du moteur. Et là, entièrement. Et c'est un petit jeu entre les équipes où Red Bull, dès qu'ils voient Ferrari qui a la lumière qui s'allume 5 minutes plus tôt que l'heure normale, ils vont tout de suite dire c'est pas dans le règlement. Et pour ça, Red Bull, ils le connaissent par cœur et ils exploitent au maximum. Et moi, je trouve que là-dessus, ben, ils ont eu tout à fait raison de faire ça, même si je trouve que c'est pas correct vis-à-vis des autres, mais c'est le règlement. Et l'année prochaine, à la FIA d'adapter le règlement vis-à-vis des modifications comme il y a eu pour Vettel, et de donner aussi des règles pour les travails 2 soirs de suite interdits ou comme ça. Et voilà. Et l'année prochaine, je fais confiance à des ingénieurs, pas toujours Red Bull, il y a aussi des idées ailleurs qui sont peut-être pas aussi flagrantes, mais de trouver des failles, et c'est là le point fort, et ça c'est
on avait eu le cas avec Ferrari quand Alonso, bah c'est en Belgique, Alonso abandonne sur accident et ils en profitent derrière en allant en Italie pour changer la boîte en tout simplement en lisant et en exploitant une faille du règlement qui leur permettait de mettre une ancienne boîte le vendredi pour économiser une journée avec une nouvelle boîte. Voilà, c'est ça aussi le boulot des équipes, c'est d'interpréter, et c'est paradoxe parce que en même temps ils interprètent tous le règlement, en même temps ils entretiennent tous ce côté un petit peu suspicieux. Ah, il fait ça, il a pas le droit et compagnie, et ils le font
mais
tous.
Ça reste de la polémique saine entre guillemets parce que ça reste lié au règlement.
Oui, voilà. Mais ce qui est intéressant,
puis heureusement qu'ils interprètent, sinon on serait chier. Ils suivraient le règlement à la lettre, les voitures se ressembleraient toutes, voilà.
Mais c'est ça qui était intéressant ce week-end, c'est qu'on avait Ferrari. Alors Ferrari a d'abord porté réclamation sur la légalité de la Red Bull. Bon, on n'a pas beaucoup parlé, mais matériaux, des formations, je sais plus quoi. Il y a aussi Red Bull qui utiliserait
un espèce liquide.
Oui, il y a aussi il y a une espèce de liquide qui poserait sur les parties où notamment souffle les échappements, etc., et où qui aurait un très bon qui améliorerait la fluidité aérodynamique. Enfin voilà, c'est de la biomimique ou je sais plus quoi. Enfin, on demandera peut-être à Gus Gus de nous en parler un peu plus, qu'il connaît un peu mieux le sujet. Mais voilà, donc il y a déjà eu des réclamations de Ferrari. Derrière, il y avait aussi Red Bull qui dit tiens, là ils ont fait 2 trucs de nuit, est-ce que c'est normal? Après, bon, il y a l'affaire Vettel, le jeu aussi. C'est ça, quoi. C'est derrière, les équipes gueulent en disant est-ce que ça c'est valable et tout. Et Ferrari l'a très bien dit. Nous, on va voir la FIA, on leur demande est-ce que ce qu'ils font est normal. Ils nous disent oui, ils nous disent non. C'est à eux de voir. Mais derrière, s'ils nous disent oui, bah nous on le fera. S'ils nous disent non, on le fera pas. Ça fait partie du processus qui est un processus d'une compétition où chacun se regarde et voilà, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je fais. Voilà, quand on est en compétition, bah il faut absolument regarder ce que font les autres, regarder ce qui est possible de faire et compagnie, quoi.
Deuxième place, 2301 points. On l'a tous les trois mis deuxième, c'est Fernando Alonso.
J'ai failli le mettre premier. Je me suis dit, j'avais pas le droit de faire ça, parce que c'est vrai que j'ai été un peu dur cette année avec Kimi, j'avais pas le droit de ne pas mettre premier. Mais si je devais choisir l'un des deux pilotes, celui qui m'a le plus impressionné, j'ai été davantage impressionné par la performance d'Alonso en course que par la performance de Kimi.
Il faut qu'il gagne de la vitesse en qualif, hein. En course, la voiture, elle est bien la voiture en course.
Mais après, aussi, est-ce que dans leur tête aujourd'hui, il n'y a pas non plus le calcul qui est de se dire, bon, aujourd'hui la hiérarchie est un peu plus établie, est-ce qu'on peut pas perdre un peu de vitesse en qualif? Encore une fois, c'est un compromis. Donc perdre un peu de vitesse en qualif pour avoir une meilleure voiture.
Le problème, c'est que c'est un coup à être deuxième, troisième, quatrième et d'avoir les Red Bull devant. Et quand les Red Bull sont devant, après pour les rattraper.
Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ils sont obligés de faire quelque chose. C'est-à-dire que, on dit, il faut qu'ils soient plus rapides en qualification. Oui, mais est-ce que être plus rapide en qualification, ça les rendra pas plus lents en course?
Ah oui,
c'est toujours pareil. Quoi. On dit, il faut, mais eux-mêmes le savent depuis le début de l'année, ils le disent, on veut être plus rapide en qualification. S'ils le font pas, c'est peut-être parce qu'ils ne peuvent pas.
C'est pas qu'ils veulent pas. Ils sont pas ça pour ménager le suspense, hein.
Non.
On est en F1. Le rêve de toutes les équipes en F1, c'est de faire Red Bull l'an dernier.
Voilà.
C'est tu gagnes toutes les courses, tu asphyxies les autres et basta, tu finis champion à la fin. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Malheureusement, tout le monde peut pas le faire.
Non mais Alonso, il a fait du Alonso 2012, hein, donc il est constant, il fait aucune erreur. Pour moi, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup déjà depuis les années Renault ou même des fois quand il avait pas la meilleure voiture. Moi, j'ai toujours dit c'est un peu comme un chien, il a l'osse et il le ronge et il le lâche pas et il fait pas d'erreur, il est constant et sa place au championnat, elle représente tout à fait ça. Il n'a pas la meilleure voiture du plateau. Pour moi, Raikkonen, c'est la même chose aussi. Il se retrouve derrière parce que la voiture, elle est aussi un cran en dessous. Mais c'est pour moi les deux pilotes qui sont, ils sont métronomes, ces pilotes. Leur classement au classement, ça se reflète de leur façon de conduire, quoi.
Ah, mais je pense que cette année, à la fin de saison, quand il y aura, vous savez, toujours les trucs. Bon, nous, on le fait pas au SAV d'or, mais, vous savez, il y a toujours, l'écurie de l'année, le pilote de l'année. Le pilote de l'année, je suis presque sûr, ça sera tout le temps Alonso. Faut se rendre compte ce qu'il a fait, surtout cette année, c'est monstrueux. C'est-à-dire que c'est un type qui a tout le temps été à 100%, quoi.
Mais il fait cette année ce qu'il disait l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, il disait, j'ai pas forcément la voiture qui, ça se remarque pas forcément, mais je fais ma meilleure saison. En termes de pilotage, je tire tout ce que je peux tirer à la voiture, je suis à fond en chaque fois, quoi. Je fais ma meilleure saison. Et là, cette année, c'est là qu'il se trouve dans une position où tout ça, ça ressort. L'an dernier, il s'était écrasé par Red Bull, la hiérarchie était plus ou moins fixée, c'est toujours dans les mêmes eaux. Donc on disait, il est régulier, mais ça n'impressionnait pas. Là, cette année, ça impressionne parce qu'on le voit, parce qu'autour ça bouge et que lui, c'est le fil rouge de la saison. Voilà, c'est le mec qui est tout le temps là, il profite. Et c'est vrai qu'il est énorme. Mais je pense pas que ça vienne que cette année. Je pense pas que ce soit un Alonso de 2012.
Ça ressort quand même beaucoup cette année.
Ça ressort beaucoup cette année, mais je pense que c'est le Alonso qui comme ça depuis chez Ferrari et depuis chez McLaren, chez Renault. Et c'est ce qu'on attend de voir, notamment de Vettel. C'est un Alonso qui est au volant de ce qui n'est pas la meilleure voiture et qui en tire le maximum. Et c'est ce qu'on attend de voir chez les autres. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la différence entre Alonso et Vettel. Aujourd'hui, Alonso, il doit aller chercher des ressources qu'on pensait peut-être insoupçonnées il y a 5-6 ans, mais qui font effectivement que Alonso, peu à peu, est en train de devenir peut-être l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Mais ça se fait sur le long terme, ça se fait sur une carrière de 10, de 15 ans. Et là, on commence peut-être à en voir les
choses. Il y a quasiment que Vettel, hein, quand tu regardes, qui n'a pas encore eu ça. Alors c'est peut-être sans doute lié à l'âge. Mais tous ont eu.
Oh, Hamilton aussi, parce que Hamilton, il a eu des années difficiles, mais derrière, qui étaient un peu plus difficiles que d'autres.
Disons quand même
il n'a pas encore connu vraiment des voitures qui étaient,
Ça n'a pas été catastrophique, en tout cas pas sur une saison entière, mais il y a quand même eu des moments où le plus bas qu'il ait connu chez McLaren, c'était quand même plus bas que le plus bas qu'ait connu Vettel chez Red Bull. Hein.
Oui.
Pire avec Hamilton, on se doute bien que l'an prochain, ça va être compliqué. Mais il le sait, déjà.
Non, mais c'est ça, le vrai test d'Hamilton, c'est l'année prochaine. C'est Mercedes.
Et sinon, sur la course d'Alonso, par 6, dès le premier tour, il fait 4.
Là, une bonne vitesse de pointe, il dépasse, c'est la force de la voiture. Sur le schéma, on n'a pas non plus énormément de surprises. On sait qu'elle est pas forcément bonne en qualif. Derrière la course, on sait qu'elle est meilleure avec une bonne vitesse de pointe et il n'y a pas eu de grosses surprises. Et après, Alonso qui commet pas d'erreur et voilà donc.
Il revient bien quand même sur la fin, sur Kimi.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a jamais eu non plus énormément vraiment des cas, hein, donc.
Non, mais voilà, c'est une bonne course parce que à la fois dans la défense quand il était attaqué par Button par exemple, mais aussi dans l'attaque, il est tout le temps pareil. C'est-à-dire que t'as des pilotes où t'as l'impression qu'ils sont bons dans l'attaque, mais quand c'est en défense c'est un peu plus compliqué. Quand ils subissent c'est un peu plus compliqué. Lui, il arrive à subir en attaquant. C'est-à-dire que voilà, quand tu voyais sur Button, on voyait bien que Button était plus rapide, mais il arrivait malgré tout à jouer de sa vitesse de pointe et derrière bah essayer de grappiller peu à peu du temps et à travailler sur des longs tours et compagnie pour creuser son écart et compagnie. C'est vraiment, je crois que c'est toi tout à l'heure qui disais, Alex, l'aspect métronome. Voilà, c'est un métronome, quoi. C'est voilà, il a un boulot à faire et il le fait, et c'est propre, c'est net, et voilà, c'est Alonso cette année, quoi. C'est, on a vraiment l'impression de voir un mec qui est au sommet de sa forme et que c'est juste regrettable de pas le voir avec une meilleure voiture.
Mais même plus que ça, parce que quand Button était derrière, généralement quand deux pilotes se battent, on voit qui prend la distance par rapport à celui qui est devant, et là il reste quand même bien collé devant, il perd pas trop de temps, il fait les choses proprement et il se laisse pas distancer non plus. Donc c'est là où je trouve que c'est très fort, parce que tous les autres cas comme ça, ils se font directement, on voit tout de suite le gap avec le pilote devant qui s'agrandit.
Ouais, ça se creuse. Bah voilà. On a d'ailleurs vu ce week-end quelques cas. Ouais, c'est ça, c'est Alonso, il a l'art d'attaquer en défendant, en étant conservateur, enfin, mais tout, encore une fois, tout ça, c'est le talent intrinsèque du pilote, mais c'est aussi l'expérience. C'est un mec, ça fait 10 ans qu'il est là, il a fait quand même pas mal d'écuries, il a aussi baroudé, ce qui est pas le cas de la plupart de ses rivaux. C'est aussi ce qui fait les qualités de Button aujourd'hui, quoi. Button aujourd'hui, ce qui a fait sa force, notamment l'année dernière, c'est que il avait l'expérience, il a McLaren, il a Brown, il a Honda, il a Williams, il a une expérience. Et il a de la bouteille en Formule 1 qui donne des qualités. Voilà, c'est les pilotes, c'est comme le vin, ça s'améliore avec les années. Il faut juste leur laisser le temps de s'améliorer et donc de les juger à la fin de leur carrière.
Oui, mais après, s'il y a trop de temps, il devient bouchonné aussi. Hein, donc,
oui, c'est vrai. C'est vrai.
On a quelques exemples de grands crus qui passent mal à la fin.
Et donc, premier, 3012 points. On l'a tous les trois mis premier. Moi, je lui aurais même filé 50, 70 points si j'avais pu. C'est Kimi.
Pour moi, il y a une seule chose qui est là-dedans, c'est sa communication radio lors de deuxième safety car, où il lui dit les pneus c'est ok, le moteur c'est ok, et il y a le pilote qui fait ouais, je sais ce que j'ai à faire, arrêtez de me casser les pieds. Moi, je trouve que ça, rien que pour ça, moi je l'aurais déjà mis vainqueur à ce moment-là. Moi,
c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, c'est pas simple, c'est vraiment le retour de Kimi.
Tout à fait, là c'est.
Voilà, il a pas géré ce Grand Prix différemment, hein, même au niveau de la com. Hein, mais voilà, c'est pas que la victoire. Il y a en effet, il y a ces extraits radio, mais j'ai presque envie de dire à mourir de rire sur le coup.
Moi, je trouve que des fois c'est tellement cloisonné, ou des personnes qui disent rien. Moi, quand j'ai un pilote, on se rappelle de l'épisode Vettel où ils disent ils lancent le gant devant les caméras et tout ça. Mais moi, quand je vois ça, je dis mais enfin, c'est des hommes, ils ont des sentiments, ils sortent de là, ils sont pas contents. Raikkonen, tel qu'on le connaît, c'est non mais cassez-moi pas les pieds, je sais ce que j'ai à faire, je suis en train de me concentrer, de regarder. Ce que faire mon travail, quoi.
Première, ils l'ont pas trop remarqué. C'est celle où il dit j'ai les deux, hein, j'ai les textes. Donc c'est au 22e tour où il dit oui, il y a Alonso qui est derrière toi, 5 secondes, je te tiendrai au courant des écarts, hein, donc reste dans le rythme. Et c'est là qu'il dit donc cette phrase laissez-moi seul, je sais quoi faire, qui est en train de devenir une espèce de même F1.
Qu'il y a plein, oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, moi, c'est un peu ce qui m'agace avec les conversations radio de Raikkonen, c'est que faut juste se rappeler, réécouter un peu les conversations de radio de Fernando Alonso il y a 2 ans. Fernando Alonso dit la même chose. Il parle de la même manière à son équipe. Donc là aujourd'hui où c'est dans le discours de Raikkonen, c'est c'est génial, c'est amusant et compagnie. Il y a 2 ans dans Alonso, réécouter les SAV, c'était Alonso marche sur son équipe et compagnie. Est-ce que Ferrari va supporter? Moi, j'ai envie de dire, c'est une question d'image, alors que fondamentalement, moi, ce qui m'a justement rassuré, c'est de me dire, et c'est le grand contraste de Raikkonen, c'est que j'ai été déçu par son arrivée au podium où il a été assez peu chaleureux avec l'équipe.
Bon, après, il les remercie quand même à la radio.
Oui, il les remercie, mais enfin, voilà, c'est un peu coucou de loin. On a quand même vu des arrivées plus chaleureuses, le mec descend de sa voiture, il fait coucou de loin et après il se barre à la pesée.
C'est Kimi aussi, bon, hein.
C'est Kimi. Mais en même temps, moi, c'est toujours un peu ce qui m'a fait me dire de Kimi Raikkonen qu'il l'égalerait jamais des Alonso, des Schumacher à combattre. compagnie, c'est ce côté pas assez fédérateur avec son équipe, pas assez partageur. Maintenant, c'est vrai que il y a aussi le côté partageur. Je pense que ils se sont fait une très bonne fête. Je pense qu'avec Kimi Räikkönen, il va y avoir des très bonnes fêtes
glace,
avec l'équipe et compagnie. Voilà. D'ailleurs, il a dit après la course dans une interview de Lotus, on lui a demandé bon alors, vous allez faire la fête longtemps? Et lui, il a répondu ah bah vous savez, il reste 2 semaines avant le prochain Grand Prix. Donc voilà, ça donne un peu le truc. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est que c'est quelqu'un qui d'extérieur peut être un peu décevant et de prime abord peut donner un peu l'impression d'être dégagé par rapport à l'équipe. Et moi, ce que j'ai aimé avec ces conversations radio, c'est qu'on a vraiment senti le mec, il disait non mais qui prenait les clés de la baraque. Quoi. Comme Alonso avait pris les clés de la baraque chez Ferrari, il sentait aussi que c'est la fébrilité de l'équipe parce que mine de rien, Lotus, ça commence à faire un bail, ils n'avaient pas gagné.
Ah bah, et là, voilà, que ce soit l'équipe. Denso.
Non, on va pas parler de Lotus.
Ah là, là voilà. Vous avez vu, Jacques, c'est qui était à l'époque. C'est pas vraiment la même équipe non plus.
C'est le Japon 2009, quoi. Voilà. Enfin, c'est ouais, c'est ça. C'est la dernière victoire, c'est Japon 2009, il me semble.
Ouais,
après Singapour. Non, Japon 2008.
Oui, pas Alonso.
Oui, Alonso. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est ça date de longtemps, quoi. Et encore Alonso, il savait avec à qui ils avaient affaire. Là, ça fait quand même depuis ils se cherchent un leader. Ils ont d'abord eu Kubica, après ils ont eu des pilotes qui n'étaient pas des leaders dans l'âme. Là, ils ont Kimi Räikkönen qui a connu un début de saison difficile. Ils sont toujours un peu plus ou moins passés loin de la vie, enfin tout près de la victoire à 2-3 reprises cette saison. Là, on sentait quand même Lotus fébrile et c'est moi la victoire me fait surtout plaisir pour Lotus parce qu'ils la méritent et parce qu'ils étaient voilà Räikkönen aussi, mais vraiment Lotus ça fait plaisir qu'ils gagnent parce qu'ils sont passés très près.
Ils étaient passés très près, on n'y croyait plus, franchement.
Oui.
On se disait.
Et sûrement, on n'y croit plus qu'ils y arrivent.
Voilà, on se dit, ouais, bon, Lotus, cette année, c'est foutu, et ouais, ils y arrivent.
Mais voilà, il y a un patron, quoi, qui est là et qui tient la baraque. Et là, au moment où il avait besoin, où l'équipe commençait un petit peu, peut-être, à se liquéfier dans les stands en se disant, on va peut-être gagner, bah lui, il était là, il tenait la baraque, il leur a dit, c'est bon, les gars, vous me laissez faire, c'est bon.
Avec 3 moments clés, finalement, la qualif, et pour le coup, il peut dire merci à Vettel. Quatrième, ouais. Finalement le fait qu'il soit passé de cinquième à quatrième, ça a eu énormément d'importance. Le départ, et là il peut dire merci à Marc,
Personne n'a mis dans le classement d'ailleurs.
Il en a parfois chié, hein. Mais alors cette semaine.
C'est à se demander s'il l'a pas fait exprès.
Je sais pas, mais alors
Il y avait une consigne, je pense.
Rarement,
laisse passer Vettel.
Rarement il s'est autant foiré sur un départ, hein. Donc voilà, donc il se retrouve deuxième et merci Lewis vu à ce qui s'est passé. Donc, finalement il
non, c'est merci McLaren.
Oui,
Lewis y est pour rien.
Merci McLaren, c'est vrai, tu as raison. Donc il a eu voilà, finalement quand tu penses, il a eu énormément de chance quoi parce que
la chance sourit aux champions.
Tout à fait.
Voilà, mais c'est
et
c'est
on a vu 3 cas ce week-end. Hein.
Là, c'est le cas Räikkönen, Alonso aussi, la victoire au Grand Prix d'Europe. C'est des gens, voilà. Moi, j'aime pas trop le terme qui était cité épicier pour Alonso. C'est des gens qui font leur travail, qui sont réguliers et dès qu'il y a une opportunité, ils sont là et c'est pour ça qu'ils en sont à cette position et c'est leur manière de gérer. Ils ont acquis ça aussi avec une ancienneté vis-à-vis de la position de l'équipe. Et moi, je trouve que c'est génial ces pilotes qui disent leurs mots, qui disent ce qu'ils veulent faire, comparé des fois à des ingénieurs qui prennent le pas puis qui disent c'est maintenant que tu dois t'arrêter. Je suis d'accord qu'ils connaissent les pneus et tout ça, mais le pilote il doit quand même garder son mot à dire. Et là, on a 2 exemples entre Räikkönen et Alonso et ils sont un peu similaires, mais c'est vrai qu'ils sont pas démonstratifs la même chose vis-à-vis de l'extérieur.
Mais c'est aussi des vieux de la vieille, hein.
Justement.
On se rend pas forcément compte, mais c'est vrai que bon.
J'étais étonné de Räikkönen. Ça fait d'années qu'il est là.
Au final.
Même physiquement, parce que moi quand j'ai vu sortir, pourtant Räikkönen, on le voit depuis le début de l'année, quoi. Mais on est tellement habitué à voir les mecs sortir, c'est super élancé, même Alonso, quoi, super élancé, compagnie. Là, Räikkönen, à un moment donné,
c'est un bûcheron finlandais.
C'est Tony Stewart dans la voiture.
Oh, quand même pas.
Qu'est-ce qui se
passe? Non, il a une tenue un peu large, quand même. C'est vrai.
Oui, voilà, je me suis dit, tiens, il doit être copain avec Jacques Villeneuve.
Oui, parce que quand on le voit sans, il a pas, enfin, il est pas super fin, mais c'est pas Tony Stewart non plus.
Si vous voulez comparer, Il faut regarder sur Stat F1, vous prenez la saison 2012 et vous regardez la photo d'ensemble des pilotes, et puis en bas à droite on a Raikkonen à côté de Grosjean, ça fait peur, hein.
Ah ouais, c'est plus Grosjean, c'est une asperge.
C'est Brindy à côté de Raikkonen, ça fait c'est assez.
Et c'est même ça, enfin c'est ça aussi qui contribue au côté un peu unique. Là je faisais la comparaison avec Stewart, mais Stewart c'est un peu ça, quoi. Stewart c'est quand même un mec qui est 3 fois champion NASCAR, alors que il a un petit ventre et compagnie.
C'est
et
drôle aussi.
Voilà. Le mec, il a pas une tête de sportif. Quand tu regardes les mecs autour, c'est tous des mecs filiformes, bien gaulés et compagnie. Et lui, il est 3 fois champion du monde. Et il se laisse un petit peu aller. Il aime la pomme. Et Kimi, c'est pareil, quoi. C'est des mecs un peu intemporels, quoi. C'était vraiment, effectivement, l'impression de te retrouver devant un mec des années 70. Voilà. Qui s'en fout un petit peu du régime alimentaire. Il en suit un, mais c'est pas trop important. Et voilà. Il se fout un peu des codes. Et c'est aussi ce qui est un peu rafraîchissant avec lui.
Ce que j'adore sur la photo de famille des débuts de saison, bon, t'as tout, hein. T'as ceux qui sourient bêtement, t'as ceux qui font la gueule, et t'en as deux qui ont des lunettes de soleil. c'est Lewis et Kimi, quoi.
Non, mais Kimi Raikkonen, il y a une photo de lui, je crois que c'est vendredi, vous verrez sur la galerie Fan F1, les photos du vendredi. Il y a une photo de lui où il est interrogé par des journalistes. Et là, sincèrement, essayez d'aller la voir. On a Kimi qui est affalé sur une chaise avec ses lunettes de soleil, sa casquette, avec des micros qui sont tendus tout autour de lui. Et t'as l'impression de voir le parrain. Elle est super, cette photo. J'adore cette photo.
Ce que je disais, ouais, c'est que il fait partie de la presse de la génération des vieux, parce que bon, si t'enlèves Schumacher, mais bon, dans deux grands prix Schumacher, ça sera le passé. Bon, il y a Pedro, mais Pedro, on s'en fout.
Oui, Pedro.
Non, mais c'est vrai. Il fait partie des vieux. Cette génération qui est arrivée en 2000-2001, c'est les Weber, ouais. Button, Alonso, Kimi. Et pourtant, ils ont pas l'air d'être forcément aux portes de la retraite, surtout vu leur talent.
Alors, Raikkonen a quand même dit un peu avant le week-end là que il se voyait pas non plus finir très longtemps, enfin rester très longtemps.
Oui, il va pas rester non plus. Oui.
Là, ça l'amuse, voilà. Mais le jour où il en aura marre, il repartira. C'est pour ça qu'il fait des contrats d'un an.
C'est ça, oui. Il est parti une première fois. Je pense que ça sera pas un problème pour de nouveau partir. Mais, ouais, mais après,
il peut
encore rester facilement 4-5 ans s'il plaît. Hein.
Ouais.
Je veux dire, même quand on voit Alonso, on parle de fin de contrat en 2016, je suis pas sûr qu'en 2016, il aura pas encore le talent pour rester. C'est des gars qui pourraient rester jusqu'à l'âge de 40 ans en F1 et sans doute montrer de belles choses. Hein.
Ouais.
Vous voulez rajouter quelque chose sur la course de Kimi?
Non, bah comme
après,
je dis.
C'est vrai qu'une fois qu'il a été en tête, il a super bien géré aussi. Hein, donc.
Tu l'as dit, il y a 3 étapes. Hein, il profite d'abord du problème de Vettel, qui le place en position pour profiter du mauvais départ de Weber, qui le place en bonne position pour profiter de l'abandon d'Hamilton. mais voilà, c'est aussi ça, quoi. Il a une course. Voilà, il y a rien à dire. Il y a pas de tâche. Il a pas fait de boulettes et compagnie.
Et pour le coup, pour l'an prochain, bon. Je vois mal la Lotus gagner de nouveau sur les 2 prochains Grands Prix, mais pour l'an prochain, voilà, ils ont gagné un Grand Prix. Kimi est revenu, il a gagné un Grand Prix.
Ça a peut-être incité certains investisseurs peut-être à s'engager.
Et puis ça peut être un déclic, hein, tu sais, on en a vu certains, ils gagnaient peut-être une course une année, et puis l'année d'après, ça éclose. Ça éclut.
Ouais.
Ça.
Il faut vraiment les moyens. Je pense que ce qui pénalise Lotus aujourd'hui,
ouais,
c'est les
moyens.
C'est les finances. En face, il y a quand même 3 mammouths. Hein. Enfin voilà, 300 millions de dépensés en 2011 par Red Bull, alors qu'ils dominaient. C'est-à-dire, moi, j'ai hâte de savoir combien ils ont dépensé cette année.
Oui.
C'est cette année qui m'intéresse. L'an dernier, ils dominaient. Bon, ils ont peu dépensé. Ils ont dépensé 300 millions, mais.
On va leur demander. Cette année, on en a vendu des canettes. Donc, au classement, les gars, ils ne sont plus que 2 au classement du SAV. Alonso, 256, Vettel, 246. 10 petits points. À noter que Hamilton est 3e, 199, Raikkonen, 4e, 195. Donc, ça peut encore jouer aussi pour le podium du SAV. Au classement des équipes, eh ben, vous savez quoi? Ils sont encore 4, puisque Red Bull a 384, Ferrari 351, McLaren 348, et Lotus 304.
C'est dingue.
Dans l'autre classement, c'est un peu plus serré, enfin oui, Vettel 255 devant Alonso 245, que c'est bon, hein, ça sera un des deux, voilà. Donc on aura un triple.
Et donc seul Sébastien Vettel pourrait être titré aux États-Unis.
Voilà. Donc ça veut dire qu'on aura un triple champion du monde.
Et soit l'un ou soit l'autre, ça sera de toute façon le plus jeune.
Le plus jeune. Et ouais, Vettel, lui, pourrait aussi rajouter, enfin, parce que bon... Schumacher a gagné 5 titres à la suite, mais Vettel en plus, ça serait ses 3 premiers titres, quoi. C'est à la suite.
Mais ils sont même 3 à la suite, ils sont pas nombreux. Je crois que c'est Schumacher, Fangio,
Ouais.
Et je crois que
c'est... Bah, de toute façon, au-delà de 3, il n'y en a pas beaucoup non plus.
Ce Clark, il y a une année d'écart, je crois, à un moment donné.
À noter que Raikkonen, avec sa victoire, il a 198 points. Il a 31 points d'avance devant Weber, 167. Et Hamilton est à 165. Il a sans doute verrouillé sa troisième place. S'il gère bien ses deux derniers Grands Prix.
Ouais.
Voilà, quand même, bon, il y a eu ces deux années. Bon, je vais pas revenir parce qu'on en a beaucoup parlé cette année. Mais voilà, il revient cette année, il finit troisième et il gagne une course.
C'est ça aussi que je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être se poser la question, je pense, en fin de saison, quand on fera le bilan, de se dire, est-ce que vraiment on peut considérer qu'un mec qui finit troisième dans le championnat, qui gagne une course et qui, sur une voiture, sur la Lotus qui était bonne, mais qui était pas non plus dans les trois meilleurs, est-ce que vraiment c'est un mec qui avait perdu des trucs, oui. Et est-ce que vraiment c'est exceptionnel? Voilà, c'est, je pense que ça, que je suis content aussi de la victoire de Raikkonen, c'est, je pense que aussi ça va peut-être mettre un terme au fait que, ah oui, Raikkonen, vous vous rendez compte, il y a même plus deux ans, chaque performance c'était extraordinaire. Non, il est tout simplement voilà, le même qu'avant.
Il a fait
des
bonnes courses avant, hein, faut pas non plus.
Non mais voilà, non mais c'est ça, c'est que il a fait des bonnes courses avant, il est tout simple, c'est tout simplement un mec, c'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est que si on s'enchantait de se dire, ah oh, là, qu'est-ce qu'il fait des belles courses et compagnie, qu'est-ce que c'est bien pour un revenant, mais là qu'on voit qu'il gagne, peut-être que ça va inciter les gens à se dire davantage, bah peut-être que tout simplement, il est revenu à son niveau et que bah contrairement à Schumacher qui accusait l'âge et peut-être le fait de pas de compétition, bah que lui Raikkonen il a voilà, mais non, mais c'est moi, c'est ce que je dis depuis le début de l'année, c'est que Raikkonen, tout le monde dit ah là c'est formidable, après deux ans sans Formule 1, oui bah il a quand même fait du rallye,
il a fait du rallye. Et d'ailleurs faut rappeler qu'en rallye
il a pas le même âge.
Et alors ça aussi tiens, je rajoute à ton drive-through sur Jean-Louis Moncey, arrêtez de dire qu'il a passé ses deux années de rallye à péter des bagnoles. C'est vrai la première année, la deuxième année c'est pas le cas. La deuxième année, il était régulièrement entre la 8e et la 10e place, c'est-à-dire derrière les vrais rallyman, quoi, ceux qui sont dans les écuries. Non, mais ça m'énerve parce que à chaque fois, on a l'impression que Raikkonen, il a passé deux ans à péter des Citroën. La première année, c'est vrai.
Non, il a fait ça qu'un an.
La première année, c'est vrai.
La deuxième, il l'est réparé.
Mais non, mais la deuxième, il a eu peut-être deux, trois abandons, pas plus, hein.
Oui.
Et régulièrement dans les points. Chez les constructeurs, donc Red Bull n'a pas réussi à avoir le titre, il pouvait l'avoir, hein. 422 points devant Ferrari 340, il leur manque plus que 4 points.
Oui, je crois qu'il faut, il faut qu'il marque 4 points d'ici la fin de saison, ça va être dur.
Ça va être dur, ouais. McLaren est à 318, Lotus 288, là, normalement, les constructeurs, il n'y a pas trop de suspense. Peut-être l'endroit où il y a le plus de suspense chez les constructeurs, c'est entre la 5e et la 6e place, Mercedes 136, Sauber 124.
Ouais,
et on sait jamais, 12 points. Bon, il reste plus que deux courses. C'est forcément plus compliqué en milieu de tableau. Mais après tout.
Surtout que là, ça fait quand même quelques grands prix que, à la fois Sauber et Mercedes, soit.
Mercedes, ça fait 4 courses qu'ils ont pas marqué de points.
Oui,
et ils ont eu un creux, quoi, en Corée, en Inde.
Et même en qualif, ils sont pas bien du tout, quoi. Donc
voilà, c'était tout pour le grand prix, pour le week-end. Mais.
Oui, vas-y, Chenny, c'était tout pour le grand prix. Enfin, l'un des 19 grands prix pour Chédé, parce que voilà. Chédé, pour lui, il y a 19 grands prix.
Allez, j'ai fini la saison. C'est bon, on peut ranger, il a gagné.
Allez, on va passer au fait marquant. Et donc, on vous avait demandé la semaine dernière, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Inde. Vous avez été 76 à voter. Merci à vous. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10 cette semaine. Est arrivé troisième, 7 votes, 9,21%. Retour à la raison pour Grosjean. C'était qui? C'était pas l'invité?
C'était l'invité, oui.
Deuxième, 42,11%, 32 votes. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
T'as oublié de dire la masculine et minuscule, je t'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Je passe.
Et donc, premier, 37 votes. Vettel nous dégoûte encore cette semaine, 48,68%. Heureusement, ça s'est arrêté. C'est bien. Donc c'était Alex.
Ouais.
Oui, alors pour moi il m'est venu tout de suite une phrase qui est même pas directement sur le Grand Prix, je sais pas si ça jouera, mais pour moi le fait marquant du Grand Prix c'était Vettel fait du stop.
Oui.
Du fait qu'il attendait sur la voiture que la...
C'est peut-être pas super vendeur.
Ouais.
Voilà. Voilà. Le fait du stop, voilà, c'est...
Vettel fait du stop, je sais pas, il a aussi des envies de rouler dans une Mercedes.
Oui. Non. Ou Vettel repasse par la stand, par la case stand, par exemple.
Voilà, ouais, ça c'est peut-être voilà. Un peu mieux. Vettel repasse par la case stand.
Sinon?
Kimi, virgule, what else?
Oh, c'est joli. Non, je dois reconnaître, c'est joli.
Écoute, tu dis, c'est un art, que veux-tu?
Qu'est-ce que je vais prendre? Pour une fois qu'on a du choix. Bon, je sais que de toute façon, j'aurai pas la première place.
Tu vas jouer donc la dernière place.
Oui, parce que là, faut, en plus, c'est la fin de saison, donc faut la jouer stratégique. On est bien d'accord.
La pluie. L'absence de pluie.
Le Grand Prix. Au...
L'éclipse qu'il y a eu à un moment donné au-dessus du Grand Prix. Voilà. À un moment donné, il y avait une éclipse.
Sinon, j'avais noté aussi l'envol de Rosberg, enfin.
Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est très joli.
Je vais prendre ça. En plus, j'hésitais justement à prendre un truc. Je vais prendre ça. C'est une très jolie formule.
Bon, on est bien d'accord, Shinji, si tu gagnes avec cette formule-là, c'est invalidé.
Tout à fait.
Ça n'est pas ta formule.
Je suis tout à fait d'accord, honnête. Voilà.
Bon, vu que tu veux tout, quoi qu'il arrive, tu vas pas gagner.
Oui, voilà, je suis très bien que tu vas gagner, donc...
Alors après, on rassure, bien évidemment, il y a d'autres faits marquants, peut-être qu'il y a des trucs qui vous auraient plus touché vous, mais voilà, le but du jeu, c'est de nous départager, nous trois, de ce qui nous a marqué pendant cette course. Donc voilà.
Donc cette semaine, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Abu Dhabi 2012? Vous aurez le choix entre Kimi Wattels, l'envol de Rosberg enfin, ou bien Vettel repasse par la case stand. Dino, c'est l'heure du concours?
Ouais, le concours tape à position.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top à Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, cette semaine, rappelez-vous, donc la semaine dernière, la question nous était posée par Quentin et était la suivante. Si vous voulez passer votre week-end à deux personnes à Abu Dhabi en passant 4 nuits à l'hôtel Emirates Palace 6 dans une chambre Pearl avec la formule petit déjeuner et que vous souhaitez rester 2 jours sur le circuit dans le Marina Grandstand, quelle somme allez-vous débourser en ne prenant en compte que ces deux facteurs, l'hôtel et les 2 jours sur le Grand Prix? Alors, on a eu une seule réponse. Voilà. Bon. Donc, il faut savoir que le calcul qui nous a été fourni, la réponse qui nous a été fournie, je précise bien, la réponse qui nous a été fournie par Quentin était la suivante. 4 nuits à l'hôtel Emirates Palace dans une chambre Pearl avec petit déjeuner, 2 208 €. Mmh. 2 jours dans le Marina Grandstand, 1 020 €. Alors en fait, c'est pas 1 020 €, c'est 1 020 $. D'accord. En euros, ça fait 796.
D'accord.
Donc, soit un total de 3 000.
Je suis en train de regarder 3 000... ce qu'il y a dans une chambre Pearl.
Il y a une Pearl. Non.
Il y a une télé-écran plat, un truc pour changer les bébés, un laptop size safe.
Oui. Je pense qu'en fait, c'est juste un meuble où tu peux mettre
ton ordinateur, c'est ça? Voilà. Un balcon, un bureau de travail, un entertainment center, donc un centre d'amusement. Ouais, pour pas dire une console de jeu, quoi.
Voilà. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de lit, pas de salle de bain, pas de table, pas de rien.
Et un 24-hour butler.
Bah, c'est le service.
C'est un room service, voilà.
C'est un hôtel qui est quand même...
À l'intérieur, vu à l'intérieur, enfin, vu inner courtyard, donc c'est sur les jardins. Décor contemporain, lit king size ou twin. Un lit extra est autorisé. Dans la salle de bain, il y a une salle de bain, une douche, un bidet. Et
dans la salle de bain, il y a une salle de bain.
Une baignoire, baignoire.
Écoutez, dans cette salle de bain, moi j'ai une idée géniale, on va mettre un four. Les gens, ils pourront à la fois prendre leur bain et en même temps préparer des tagliatelles.
Il y a une giga baignoire.
Waouh.
Le tout pour 2 adultes et 1 enfant, et ça fait 55 mètres carrés.
Ouais, c'est une chambre Pearl.
Voilà.
Donc au total, hein, ça vous ferait le week-end à 3 004 €. Voilà. Alors on a eu une réponse, je vais le dire, hein, c'est la réponse de Rémi, qui lui avait un prix de chambre un peu moins cher, mais j'ai quand même accepté la réponse parce que en fait les réservations d'hôtel, le prix de l'hôtel, ça dépend aussi du week-end où vous faites la réservation. Et lui a fait la réservation au mois de décembre parce que tout simplement, je pense qu'à ce moment-là, il pouvait pas du tout faire de devis parce que vous pouvez faire un devis sur le site de l'hôtel, vous pouvez pas faire de devis pour le week-end donc il a fait pour un autre week-end et donc le prix fluctue en fonction de l'événement et la chambre était un peu moins chère et il y avait en plus des réductions donc voilà c'est pour ça que c'est pas la même réponse, mais en tout cas il y avait la bonne donnée, c'était le prix des billets à Abu Dhabi qui était bon, donc le raisonnement était bon, donc là on accepte, il y a pas de problème.
Donc il y avait hôtel, place au circuit, il y avait rien d'autre?
Non, le taxi et tout, c'est pas parce que faut compter le taxi aussi. C'est-à-dire que, on tient à vous dire, si vous faites ce voyage-là, soit vous comptez la location du véhicule, soit vous comptez le taxi, parce que c'est quand même l'un à l'opposé de l'autre.
Il n'y a pas non plus une place au Ferrari World? Parce que bon, ce qui t'a allé à Abu Dhabi, faut au moins aller au Ferrari World.
Non, mais ça pourrait être intéressant, je te dis, que tu nous donnes le prix de la place au Ferrari World.
Je suis en train de chercher.
Voilà. Je te connais bien. Voilà, tu, comme ça, tu le sauras, Alex, hein, si tu veux aller. Donc, parce que Alex a prévu donc d'aller à Abu Dhabi. Tu sais à peu près la fourchette du budget pour pouvoir y aller.
Mais quand j'ai entendu la question, j'ai dit mais si ça tombe pile poil, on n'aurait pas pu faire faire exprès. Donc voilà, non, effectivement, on cherchait quelque chose avec mon épouse et j'ai vu un reportage sur le montage de l'attraction de F1 là, le montage des rails, et je me suis dit voilà, c'est là que je veux aller.
Quitte à mourir, je veux mourir sans ce truc.
Tout à fait. Il me reste 4 ans pour préparer, mais comme ça, je sais déjà que je peux me mettre à économiser.
Quand même. Ah, j'ai les prix du Ferrari World.
Ah.
Ce que je regarde, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Hein. Donc il y a l'admission générale qui donne accès à tout Ferrari World, à toutes les attractions. C'est 225 dirhams émiratis, c'est 47 euros. Enfin 47,79.
Ouais, c'est pas cher.
C'est pas voilà. Cher.
On a des parcs, l'admission premium. Donc il y a la version premium, hein. C'est 325, ça vous coûtera 69 euros.
Et ça c'est quoi premium?
Avec le champagne.
Déjà dans le truc standard, t'as tout.
Il y a tout, et je vois fou The Fast Track Lane. Donc je pense qu'il doit y avoir l'accès à un train ou un monorail, voilà.
Ce truc il est tellement grand qu'il y a un monorail.
Attends, je suis en train de regarder ce que c'est.
Ce serait pas pour éviter la queue, pour passer plus vite dans les attractions peut-être? Il y a des
Fast Lane. Non, interactive game show. Testez votre savoir de Ferrari dans ce jeu interactif. C'est un show interactif où s'affrontent les visiteurs et tu peux gagner des prix.
Ouais, imaginez bien à Abu Dhabi, hein, le type de prix qu'on gagne. Vous avez gagné un puits de pétrole. Oh, sympa. Bah, toujours... J'en fais quoi? Bah, tu récupères quoi.
Enfin... C'est toujours embêtant de le ramener dans l'avion.
Oh zut. Oh, on s'arrangera.
J'ai gagné une Ferrari. Oh zut, je vais devoir rentrer en voiture.
Oui, le trajet peut être sympa. Écoute chérie, on passe par où la Somalie ou l'Irak?
Mais c'est un truc spécial parce qu'il est pas listé dans les attractions. Donc ouais.
C'est... Après c'est peut-être comme il dit le fast lane, c'est peut-être.
Mais fast lane c'est un truc, c'est pas simplement c'est pas un coupe-fil hein, c'est l'accès c'est un truc spécial et apparemment ouais c'est je sais pas parce que je vois pas de truc fast track à part ce truc fast lane où justement tu peux gagner des lots.
Je vous tiendrai informé.
Voilà. Dans 4 ans, tu nous préviens. Tu nous reviens,
et
tu
sinon,
reviens nous voir dans 4 ans.
Le pass annuel est à 650 dirhams.
Le pass annuel, tu sais, le mec mordu de Ferrari. Tu fais quoi, chérie? Bah écoutez.
Je vais à Abu Dhabi. C'est 100
Abu Dhabi, voilà.
Et si tu y vas plus de 2 fois, ça vaut le coup.
Oui, voilà.
si t'as un boulot qui est très prenant le soir, vite avant de rentrer souper, tu vas vite faire un
voilà.
Tour pour te changer les idées.
Écoute, chérie, là, j'ai fait dito. Bon, bah, je vais acheter du pain et je vais à Abu Dhabi de fait et je reviens vers 8h.
Voilà.
Donc, quelle est la... Finalement, on a donc qu'une seule question.
Bah, on a qu'une seule réponse, donc une seule question. Hein. Donc, félicitations, Rémi, hein, pour ta réponse.
Bravo.
Et tu as été le seul, bravo. Hein. Nous n'allons donc pas choisir ta question puisque ta question s'impose de fait puisque tu es tout seul. Et la question est la suivante. Sur quel circuit a-t-on organisé le plus de fois un Grand Prix des États-Unis et qui a été le plus victorieux sur ce circuit?
Oh,
j'insiste, un Grand Prix des États-Unis.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que faut qu'on précise les choses tout de suite. Est-ce que c'est l'intitulé strict États-Unis ou des intitulés qui
voilà.
Comprennent les États-Unis dedans?
Ah non, si j'insiste dessus, c'est Grand Prix des États-Unis.
D'accord.
C'est pas Est ou Grand Prix.
D'accord.
Des
États-Unis. C'est pas Est, Ouest, machin. C'est Grand Prix
non,
des États-Unis.
C'est Grand Prix des États-Unis.
D'accord.
Puisque le prochain Grand Prix s'appellera lui simplement Grand Prix des États-Unis.
Ah, c'est pour ça, faut être précis comme ça au moins.
Et on insiste bien, c'est le nom des vainqueurs sur le circuit qui a accueilli le plus de fois le Grand Prix. Voilà.
OK.
Donc pour répondre, vous avez 15 jours jusqu'au SAV du Grand Prix des États-Unis. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que on a toutes les places pour la fin de la saison. Tout est booké.
Oui.
On a même déjà un candidat pour 2013. voilà et vous remercier donc du coup.
Bah vous pouvez si vous différent. Voulez bon c'est en 2013 hein, c'est dans
voilà.
Même quelques mois hein, mais si vous avez l'envie hein, n'hésitez pas après tout. Hein.
Et donc, pour participer, on vous rappelle, donc, il faudra nous poser une question sur le Grand Prix, sur le Brésil, voilà. Et pour participer, donc, c'est concours@savf1.fr. Je vous rappelle la question. Sur quel circuit a-t-on organisé le plus de fois un Grand Prix des États-Unis? Et, qui a été le plus victorieux sur ce circuit?
Très bien. Eh bien, justement, dans 2 semaines, c'est le grand retour du Grand Prix des États-Unis sur le circuit des Amériques à Austin. Et si vous avez des good shots et que vous dites, oh bah, je vais regarder autre chose, hein, eh bien, rassurez-vous, Alex est là pour vous.
Oui, tout à fait. Alors, par rapport au Grand Prix des Amériques, d'Amérique, il va passer à 20h le soir. Donc, il faut aussi des activités qui soient pas trop tôt.
D'ailleurs, donc, juste une précision. Est-ce qu'on sait si, alors, ça sera sur TF1 ou Eurosport?
Ça sera sur Eurosport. Donc, d'ailleurs, cette chronique s'adresse aussi aux fans de Formule 1 qui aimeraient voir le Grand Prix d'Amérique, mais non pas Eurosport. Et donc, devront se contenter du live que proposera Fabien.
Parce que visiblement, même Christophe Lebrun qui savait pas, hein.
Ah non, ils ont annoncé, c'est bon, ça y est, c'est, voilà, c'est.
L'intégralité.
Vous aurez droit à Claire Chazal, là, l'intégralité sur Eurosport. Alors, il y aura peut-être après, ce qu'ils avaient déjà fait, donc, la reprise de la course à la fin du journal. Mais en tout cas, le Grand Prix sera sûr en intégralité sur Eurosport.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire qu'il y aura certainement qu'une couverture partielle ou, voire pas du tout couverture sur TF1.
Voilà. Préparez vos mails d'insultes.
Voilà.
Reprends, Alex, excuse-moi.
Pas de problème. Alors, si vraiment on n'aime pas la F1, on peut très bien aller chez un voisin pour se plaindre qu'il n'y a rien à la télé et taper l'incruste. Sinon, pour ceux qui ont des enfants, c'est le bon moment pour réviser les leçons pour la semaine qui vient.
Oui, c'est un moment de partager effectivement avec les enfants autour de la scolarité. Mmh. Effectivement, ouais,
faire des épreuves de maths. Si vous réussissez les épreuves de maths, vous aurez peut-être une chance de pouvoir bosser chez Williams.
Mais justement, sur le fait de dire, ben, si on travaille bien dans les maths, on peut peut-être trouver une place. Donc, j'avais mis faire les petites annonces pour trouver du travail, peut-être en F1 pour changer de carrière.
Oui, d'ailleurs, écoutez, chers auditeurs, voilà, étant actuellement sans emploi, je recherche donc un emploi, si possible,
pareil,
dans la Formule 1.
Aussi,
mais sinon, dans n'importe quelle branche professionnelle, je suis partant, quitte même à déménager de ma région, il n'y a pas de problème.
Pareil, je cherche un travail... qui paye, en fait. Enfin,
il n'y a pas des équipes qui payent des acteurs ou comme ça pour remplir un peu les motorhomes ou je sais pas, ça pourrait être...
On peut le faire.
Voilà.
On fait aussi les mariages, les bar mitzvahs.
Si on sait vraiment pas quoi faire et qu'on a un aquarium, on pourrait commencer à le nettoyer. Ça occupe bien les soirées, c'est génial.
Ouais, ah ouais, ouais. Bon, j'en ai un petit et généralement quand faut que je le nettoie, je fais merde.
Eh ben, t'as qu'à aimer la F1. Sinon, tu nettoies ton aquarium. Voilà.
Non, sinon, c'est bien ça.
Sinon, on arrive gentiment vers l'hiver, donc il y a tout plein de choses à faire, comme trier ses armoires pour enfin ranger les chemises hawaïennes et sortir clairement les grosses doudounes avec les grosses bottines.
Non, monsieur, on gardera nos chemises hawaïennes. Même.
Sinon, farter ses skis. On peut commencer à prendre ses lattes et les préparer pour l'hiver.
Ouais. Mmh.
Et à contrario, si on a sorti les skis, ben, pour les personnes qui ont une moto, ranger sa moto, enlever la batterie, lever les roues et voilà, attendre que ça se passe comme la Formule 1 et attendre la nouvelle saison. Voilà, j'ai fait les 7.
Eh ben, c'était 7 bonnes raisons, surtout l'aquarium. C'est vrai que l'aquarium, on ne pourra jamais le faire.
Mais en général, si on le fait pas, c'est l'aquarium qui se rappelle à nous au bout d'un moment.
Oui, à un moment donné, voilà. C'est...
quand t'en vois plus à travers, etc. Il y a plus de poissons.
Et donc sinon, vos pronostics sur cette prochaine course, même si, alors, c'est une nouvelle piste, ça a été suffisamment dit, voilà, c'est les équipes, hein, elles ont des données sur la piste, elles sont pas non plus en territoire complètement inconnu, mais il y a toujours des incertitudes qui peuvent arriver.
Malheureusement, je dirais que Vettel, ils ont quand même une certaine avance sur la voiture et je pense que ouais, on va beaucoup faire du Red Bull, ouais.
Moi je dirais Alonso.
Non, moi je ferais même mieux, je mettrais Alonso premier, Vettel troisième.
ça c'est le rêve. Mais réellement.
Qui tu veux, Kimi, si tu veux, quelqu'un d'autre aussi, c'est pas grave.
Non mais moi je pense que sincèrement, ce qu'on a remarqué ce week-end, c'est qu'il y a quand même deux écuries qui ont été un petit peu en deçà de ce qu'on a vu les dernières semaines. C'est justement Ferrari et Red Bull qui n'ont pas été super saillants. Et je pense que c'est aussi lié au circuit qui est quand même très ressemblant à Singapour, beaucoup de virages lents, ce qui n'est pas le cas des deux derniers circuits. Donc voilà, pourquoi pas imaginer de nouveau un vrai duel Red Bull Ferrari. Et moi je pense que peut-être que Ferrari a des nouveautés qui marcheront bien. Je suis plein d'espoir. Donc,
c'est normal, il n'y a que Son Goku qui est super saillant.
Ha ha ha. Vous savez que là, tout ce que je viens de dire, il l'a pas écouté. C'est juste, il a juste attendu le silence.
Pour préparer la blague. On arrive à la fin de cette émission.
Ouais.
On vous rappelle, est-ce qu'on a des questions pour le prochain répondeur de la semaine prochaine?
Oui, il y en a, mais vous pouvez quand même en envoyer.
Voilà, si vous en avez, n'oubliez pas, l'adresse, c'est répondeur@savf1.fr. Alex, merci de nous avoir accompagnés.
Merci à vous, merci pour vos émissions. C'est vraiment agréable et c'est, on passe des bons moments en votre compagnie. Franchement, je vous remercie et puis que on est heureux de vous retrouver pour les suites.
Bah, merci aussi à vous, hein, parce que bon là, voilà, le mercredi prochain, nous serons donc à Paris pour les Golden Blog Awards pour aller chercher ce trophée. Moi je le veux.
Si on l'a pas, de toute façon, on leur pète la gueule.
Voilà, vous hésitez pas sur Twitter, on essaiera de vous faire vivre un peu ça sur Twitter, hashtag SAVF1. Et n'oubliez pas la page Facebook aussi animée par nos gentils chroniqueurs. Voilà, où on pourra mettre aussi des photos et peut-être commenter quelques petits trucs.
On vous rappelle comme d'habitude qu'on est sur iTunes. Pensez aux 5 étoiles, qu'on est sur Podcast France.
Pensez aux 5 étoiles.
est-ce que j'ai oublié quelque chose, Dino?
T'as oublié de nous dire, j'ai dit que le SAV de la F1, c'est...
La famille.
Oui, où?
Le risque des podcasts.
Et que la F1 sur Internet, c'est sur...
fanf1.com.
Voilà.
Et on va se quitter. Mais, juste, avant que je laisse la main à Dino, Dino, tiens, je t'envoie un petit truc... que tu pourras orner en tant que générique de fin.
Je pourrais, attends.
Parce que Kimi a gagné. Et tu sais, j'ai eu des petites demandes du côté Twitter. Ah. Et puis, il y a des gens qui disent, mais, Dino, quand Alonso il gagne, il chante l'hymne italien,
J'y ai pas pensé, mais je dois dire que hier, j'ai discuté avec Steph Core au téléphone et je lui ai dit, non, mais t'inquiète, demain, je vais lui faire la gueule s'il fait pas l'hymne finlandais. Et j'ai oublié de te faire la gueule, j'ai dit, peut-être parce que j'avais
mais c'est pas grave, tu me feras plus la gueule. Non, le bon côté, c'est que, après ça, plus jamais vous ne me demanderez de chanter quelque chose.
Alors, vu qu'on parle de finlandais, moi je vous conseille sincèrement, autant l'épisode 9 était nul, autant l'épisode 10 de Tund, la mini-série de McLaren, est vraiment excellent, avec en guest star Mika Häkkinen, mais c'est juste, c'est très...
Bon, c'est bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il est tout botoxé, mais ouais.
Il vient du Nord.
Ouais, je sais pas, ils ont fait une tête bizarre. Par contre, c'est vrai que le 9 est un peu pourri quand même.
Non, il était complètement pourri.
Le seul truc marrant que j'ai vu, c'est que les couleurs des gars, elles ont pas été choisies au hasard.
Oui.
C'est que des couleurs des équipes de F1. Dans ce cas-là, bonne semaine à tous, bonne course, et je vous laisse sur ces quelques mots de poésie.
All my missions, cinema, soy sanakuntainen. Ei laksoa, ei kukkura, ei vettä rantaa, kampaa, kuin kotimata pojoinen. Max kallis isien, ei laksoa, ei kukkura, ei vettä rantaa, kampaa. Kuin kotimata pojoinen, mä kaipaan.